Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la dernière table ronde ce soir. Ça fait un plaisir de vous accueillir ici. Avant de commencer, ceux d'entre vous qui connaissent déjà la Fondation Heinrich Böll à Paris et son équipe se demandent peut-être qui je suis et surtout où est le directeur Marc Berthold qui devait animer la discussion ce soir. Malheureusement, Marc il est souffrant. Il ne peut pas être avec nous, donc je me permets de lui remplacer en tant que modérateur ce soir. Moi, je m'appelle Fabien. Peut-être vous avez entendu que j'ai aussi un petit accent. C'est dû au fait que moi, je suis aussi allemand. Je dirige également une fondation politique allemande, aussi de la Fondation Heinrich Böll, mais c'est lui qui se base à Dakar, au Sénégal. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous. Juste très, très brièvement, la Fondation Heinrich Böll, c'est une fondation politique allemande qui est très proche et affiliée au mouvement écologique en Allemagne. Et nous sommes présents dans 35 pays dans le monde, parmi lesquels se trouve aussi le bureau à Paris et également le bureau à Dakar. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir si et comment l'Europe peut être plus décoloniale et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être décoloniale et qu'est-ce que cela peut impliquer, tant pour l'Europe elle-même, mais aussi pour les relations avec le reste ou les différentes régions dans le monde. Permettez-moi tout d'abord de présenter le cadre de débat et aussi les différents intervenants. En 2019, l'Union européenne a présenté un ensemble de différentes initiatives politiques visant à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Ces plans, connus aussi sous le nom Green Deal ou en français un pacte vert pour l'Europe, avaient comme objectif d'amorcer une transition écologique, une transition énergétique dans les différents pays membres de l'Union européenne. Depuis, nous le savons, le monde a profondément changé. Nous sommes en pleine mutation. Il suffit d'écouter les différentes discussions toute la journée pour comprendre un peu les différents défis, enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les guerres en Ukraine et à Gaza, la montée de l'extrême droite en Europe, les différentes récessions économiques en Europe ou encore l'émergence du monde multipolaire dans lequel plusieurs pays, surtout en Afrique, dont nous avons besoin comme partenaires, se tournent de plus en plus vers la Russie ou la Chine. Dans ce contexte de polycrise, beaucoup de pays commencent à remettre en question la transition énergétique. Et peut-être juste pour ajouter une petite information de l'Allemagne, il y a quelques journées que le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a remis en question les objectifs du Green Deal en appelant à un assouplissement des engagements, notamment l'interdiction des nouvelles voitures à moteur thermique. Moi qui vis au Sénégal, je mesure à quel point il est crucial que la transition écologique réussisse et de ne pas perdre le lien avec le reste du monde. Et nous avons des partenaires, or eux ne nous entendent pas. À nous donc de formuler des offres qui sont mieux, qui sont plus convaincantes. Alors, comment construire une transition écologique réellement juste? Ça, c'est la question que je veux aborder ce soir avec nos chers intervenants. Je présente d'abord Alexandre Poidas, qui est le responsable du volet climat et finances chez Oxfam France. Bienvenue. Après, Fatima, ça fait un grand plaisir de te voir ici. Fatima est un partenaire de la Fondation au Sénégal. Elle est également aussi la directrice de l'ONG qui s'appelle le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Je souhaite aussi le bienvenue à Malcolm Ferdinand, qui est chercheur au Centre national de la recherche scientifique. Et last but not least, Gwendoline Delbois-Corfield, qui était ancienne députée au Parlement européen et qui est la vice-présidente de Green European Foundation. Alexandre, Oxfam vient de publier un rapport intitulé « Transition injuste ». J'aimerais bien passer la parole pour 5 minutes à toi pour que tu nous fasses un petit bref résumé. Pourquoi ce titre et quels sont les résultats que vous avez trouvés?
Merci Fabien. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'avoir ce moment d'échange entre nous un samedi soir à 19h. Youhou. Juste pour dire d'où je parle et d'où parle Oxfam aussi. Oxfam, c'est une des plus grosses ONG humanitaires dans le monde qui, comme beaucoup d'ONG dans les années 90, s'est dit « ça suffit de s'attaquer aux conséquences de la pauvreté ». Il faut s'attaquer aux causes et aux racines profondes de la pauvreté en menant des actions de plaidoyer, d'influence auprès des décideurs, ceux qui ont le pouvoir, donc les responsables politiques, notamment dans le Nord global, et les multinationales. Notre grille lecture, c'est de dire que le monde est pavé d'inégalités et c'est qu'en résorbant les inégalités, on pourra lutter contre la pauvreté et répondre aux besoins essentiels de la population mondiale. Ces inégalités, elles sont évidemment des inégalités de richesse, mais évidemment des inégalités aussi derrière de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les racisés ou non, et entre le Nord global et le Sud global. Donc, on documente assez régulièrement ces inégalités, d'un point de vue économique d'abord, qui existent évidemment dans les pays européens et occidentaux, mais qui sont encore plus exacerbées entre le Nord global et le Sud global, dû à une exploitation des plus pauvres qui est beaucoup plus massive dans ces pays-là, et un capitalisme historique qui va accentuer ces inégalités. On se retrouve ainsi dans une situation où les 1% les plus riches du Nord global ponctionnent chaque heure, je dis bien chaque heure, 30 milliards de dollars aux pays du Sud global. Ça, c'est juste pour dresser la situation des inégalités mondiales qui est absolument importante à comprendre et qui est d'autant plus accentuée par le phénomène du réchauffement climatique, puisque ceux qui subissent le plus le réchauffement climatique sont les pays du Sud global et qui sont historiquement les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez, je vous fais interagir parfois sur des petits chiffres pour pas que ce soit trop descendant, les 50% les plus pauvres de la planète, quelle est leur part de responsabilité des émissions de gaz à effet de serre? Combien ils émettent de CO2, les 50%? Là, j'ai 7, 5... C'est 8%. Donc, les 50%, la moitié de l'humanité n'est responsable que de 8% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui montre leur faible responsabilité et évidemment la majorité de cette population est concentrée dans le Sud global, sans parler de la responsabilité historique de l'ensemble des pays du Nord global, évidemment. Face à cette situation d'inégalité climatique, on a besoin de ce qu'on appelle la transition juste. C'est un enjeu qui transcende, on va dire, les sociétés occidentales. On a besoin d'une transition qui soit juste et qui puisse répondre à ces enjeux d'inégalité. Mais on n'a pas assez souvent l'occasion de regarder cette transition juste au niveau international. Et le problème, c'est que cette transition juste n'existe pas au niveau international, et c'est l'objet du rapport, et montre au contraire que la situation de la transition juste va accentuer ces inégalités dans ce qu'on appelle un colonialisme vert. Ce qu'on définit par le colonialisme vert, c'est tout simplement les pays du Nord global qui vont exploiter les pays du Sud global pour leur transition propre. Et donc, ce qu'on démontre dans ce rapport, c'est que, par exemple, les minerais nécessaires au développement des énergies renouvelables, donc lithium, cobalt, nickel, etc., c'est quoi le pourcentage de ces minerais, à nouveau je vous pose la question, qui sont concentrés dans le Sud global? Vous direz combien, pourcentage en tout? L'ensemble des minerais, 5 ou 50? 50, 95, 70. Et c'est quoi le potentiel d'éolien et de solaire mondial qui est concentré dans les pays du Sud global? En pourcentage, pareil. 70 exactement. Donc, c'est juste pour avoir conscience que l'ensemble de ces ressources dans le Sud global sont concentrées dans le Sud global pour le potentiel de transition énergétique. Pour autant, qu'est-ce qu'on constate? Un pillage massif de ces ressources qui vont en plus impliquer un accaparement de terres de beaucoup de populations du Sud global pour la bioénergie, du captage carbone, de l'éolien, du solaire, etc., qui va renforcer en fait un travail forcé, des dommages environnementaux, et qui vont en fait accentuer la situation d'inégalité et de détresse sociale de certaines populations. Sauf que d'un côté, donc, on a ces ressources naturelles qui vont être pillées par les pays du Nord global au bénéfice du Nord global pour leur propre transition, mais aussi au bénéfice de leurs profits qui vont être captés majoritairement par par ces pays-là, par les 1% les plus riches en particulier. Et j'aimerais juste vous dire, avant de laisser la parole, un exemple qui est représentatif de ce qu'on appelle ce colonialisme vert qui se manifeste dans la planète. On va prendre l'exemple de Tesla, qui produit donc des voitures électriques, propriété d'Elon Musk. Tesla, c'est 5 milliards de bénéfices l'année dernière. Une Tesla, à chaque fois qu'elle est produite, elle rapporte environ 3 000 dollars de profit à l'entreprise. Mais ça coûte aussi 3 kilos de cobalt. Et on trouve où le cobalt qui est produit dans les Tesla ? En RDC, République démocratique du Congo. Sauf que la RDC ne touche pas le bénéfice du cobalt et de la valeur produite par ce cobalt. La RDC va toucher 321 fois moins de valeur produite par ce cobalt que l'entreprise Tesla derrière. Et en général, la RDC ne captera que 14% de la chaîne de valeur globale du cobalt. C'est pour montrer la situation très représentative de ce colonialisme vert, où au nom de la transition énergétique, les pays du Nord global, et en particulier les personnes les plus riches du Nord global, vont exploiter les ressources des pays du Sud global, contribuer encore plus à une inégalité climatique, à une inégalité environnementale, au nom de leurs propres bénéfices et au nom de leurs intérêts propres. Et c'est ce qu'on décrit par le colonialisme vert aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alexandre. Si tu permets, j'ai directement une petite question, peut-être aussi pour la discussion après, mais il y a 2 semaines que j'étais en Allemagne pour une réunion des écologistes là-bas, et le rapport a suscité beaucoup de différents débats, ce qui montre aussi peut-être l'impact de ces rapports. Mais il y avait certains verts qui ont dit, est-ce que, genre, en appelant cette transition injuste et coloniale, est-ce que nous risquons pas de saper aussi nos propres objectifs d'une transition écologique et risquons de saper aussi nos propres objectifs climatiques? Donc, est-ce qu'on ne fait pas mal d'utiliser cet argument? Et juste peut-être aussi, quand je parle en Afrique avec les différents représentants des gouvernements là-bas, eux aussi, ils utilisent maintenant cet argument de dire cette transition, c'est néocolonial, pour renforcer en fait le droit d'exploiter leurs propres ressources fossiles. Je remarque ça de plus en plus dans les différents débats. Donc, à quel point est-ce que nous, en tant qu'écologistes gauche, devrons aussi parler d'une transition injuste?
Il faut tout simplement dire la vérité. Si la transition est injuste à l'heure actuelle, elle est aussi injuste dans nos pays. Et en fait, on parlera probablement d'acceptation sociale tout à l'heure et comment l'écologie est perçue à la fois dans nos pays, mais c'est pareil au niveau mondial, comment la transition est perçue. Si on met en place une transition qui repose de la même façon sur tout le monde, si on a le poids de la transition, parce que c'est un poids la transition, ça va nécessiter plus de moyens, ça va nécessiter plus de coûts, ça va nécessiter plus de privation de certaines personnes. Si on dit que ça repose sur tout le monde de la même façon, alors que d'un côté, les 50% les plus pauvres de la planète, en termes de CO2, n'émettent qu'une tonne, et que, je sais pas, un Français, par exemple, c'est 9 tonnes, un Européen, ça va être à peu près pareil, c'est évidemment injuste de dire qu'on doit tous contribuer de la même façon. Donc, dire qu'on doit faire une transition écologique, mais si elle repose de la même façon sur tout le monde, et pire, si en fait elle va au détriment des populations les plus vulnérables, c'est complètement injuste et ça ne va pas être acceptable socialement, à la fois dans nos pays, mais aussi au niveau international. Donc, une transition écologique, oui, mais laquelle ?
J'aimerais bien passer la parole maintenant à Fatima. Fatima, tu viens du Sénégal. Le Sénégal vient de conclure un accord avec l'Union européenne et avec d'autres bailleurs aussi, qui s'appelle un partenariat pour une transition juste. Dans cet accord, le Sénégal s'engage d'augmenter sa part des énergies renouvelables d'ici 2030 à 40%, si je ne me trompe pas. Et en revanche, va recevoir 2,5 milliards d'euros de ces différents bailleurs. Qu'est-ce qu'une transition juste veut dire dans le contexte sénégalais et comment aussi, quand tu entends ces propos de ces rapports d'Oxfam, qu'est-ce que tu en penses?
Merci beaucoup, Fabien, et bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas comment pour une Africaine comme moi de me retrouver avec cette fraîcheur, pour ne pas dire ce froid, à 19h à faire des panels. Mais je vais quand même essayer. Et c'est un plaisir en tout cas d'être là et découvrir cette belle ville de Cluny. Merci à la Fondation Harish Bull qui est notre partenaire au Sénégal et dans les actions que nous faisons en Afrique de nous avoir associés à cet événement. Fabien, avant juste de répondre à ta question et aussi à réagir sur ce que Alexandre vient de dire, et Oxfam est aussi un de nos grands partenaires au Sénégal. Permets-moi juste de revenir un peu sur ce que veut dire aujourd'hui pour nous l'industrie du fossile sur le continent africain. Dans les 10 prochaines années, les puissances occidentales, ou pour ne pas dire les grandes multinationales, ont prévu d'investir près de 230 milliards de dollars en Afrique. Et ça, dans le développement de l'énergie fossile. Et c'est prévu que ça aille jusqu'à 1,4 billion d'ici 2050. Mais il est clair que l'énergie fossile, on est tous d'accord, je pense que je n'ai pas besoin de convaincre la salle, que ce n'est pas compatible avec un avenir climatique qui serait rassurant. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ah, ok. D'accord. Et au même moment, ces investissements, généralement, vont se faire dans des pays qu'on appelle les nouveaux entrants, comme le Sénégal. Le Sénégal a découvert le pétrole et le gaz dernièrement. Et le gouvernement est surexcité, je dirais, par rapport à cette découverte, parce qu'ils sont convaincus qu'ils deviendront comme Dubaï ou les autres pays qui exploitent le pétrole. On n'espère pas comme le Nigeria en tout cas, mais il y a un grand espoir par rapport à ces découvertes pétrolières et gazières. Donc 33% de la production des fossiles en Afrique va se faire dans des pays qui sont considérés comme des nouveaux entrants, ce qui veut dire que le coût de production va tout simplement être encore beaucoup plus élevé, parce que le Sénégal va produire le gaz et le pétrole à un coût beaucoup plus élevé parce qu'il est obligé d'investir dans les infrastructures, il est obligé d'investir dans les réformes, que ce soit sa réglementation ou tout simplement la plupart de ses politiques qui gouvernent un peu le secteur extractif, ce qui renforce encore le coût de l'extraction. Or, on sait que 71% de la nouvelle production qui est qui va avoir lieu se fait selon des moyens aussi qui sont beaucoup plus coûteux. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le phénomène de l'exploitation des énergies fossiles en Afrique, ce n'est pas seulement le fait que ce n'est plus acceptable, mais c'est le fait aussi que ça coûte beaucoup plus aux États africains que ça aurait par exemple coûté dans les années passées, surtout que ça aurait coûté peut-être aux pays industriels qui l'avaient industrialisé, qui l'avaient fait auparavant. Malheureusement, il est aussi constaté que 71% de ces nouveaux projets ou de cet investissement dans les années à venir risque de devenir ce qu'on appelle les actifs échoués, parce que tout simplement avec les potentielles chutes des coûts des barils de pétrole ou tout simplement du coût du gaz, la plupart de ces projets risquent d'être tout simplement arrêtés, et il est prévu qu'au moins si le coût du baril du pétrole d'ici 2030 chute en deçà de 35%, c'est plus de 63% de ces projets qui vont être un peu menacés par le phénomène des actifs échoués, donc qui ne vont pas du tout être des réussites pour les gouvernements africains. Alors que ces projets, de manière globale, sont tout simplement basés sur une économie extravertie. 87% des oléoducs sur le continent africain sont destinés à l'extérieur. Donc ce n'est pas une production énergétique, pour le continent africain ou bien pour régler la question de la pauvreté énergétique au niveau local. Alors que c'est l'argument que le gouvernement va utiliser. Le gouvernement du Sénégal vous dira, j'utilise mon gaz, mon pétrole, et c'est ce que disent presque tous les pays africains, pour tout simplement arriver à asseoir l'accès universel, donc permettre à tous les Africains d'avoir accès à l'électricité. Pour un pays comme le Sénégal ou pour le continent africain, ça fait du sens parce que nous avons besoin d'avoir accès à l'électricité. Malheureusement, cette industrie du fossile reste une industrie basée sur une économie vraiment extravertie et la plupart des gazoducs, plus de 54% aussi, sont tout simplement pour l'extérieur ou en tout cas pour l'Occident ou d'autres pays. Cela pose réellement un problème et ça nous mène un peu à la pertinence du JETPI. Comme vous l'avez dit, Fabien, le Sénégal vient de signer un accord avec des pays occidentaux qui ont décidé de l'appuyer pour aller vers un investissement massif sur l'énergie renouvelable. Mais là aussi, on voit le prisme de la colonialité qui revient et la dissymétrie des rapports de pouvoir qui revient avec le modèle de financement qui est proposé. On ne peut pas dire qu'on va aider les États africains à aller vers le renouvelable. Et en le mettant sous le cachet d'une transition énergétique juste qui permettrait de soutenir les États africains vu qu'ils ont, comme vous l'avez dit, peu contribué au changement climatique, mais en même temps le faire dans un modèle business as usual, cela veut dire que c'est des prêts. Dans ce type de financement, par exemple, qui est estimé à près de 2,5 milliards, 77,7% c'est des prêts. C'est des prêts aux États africains et c'est des prêts au Sénégal surtout. Et ça, c'est le même scénario si vous allez en Afrique du Sud, qui est le premier pays africain à avoir signé aussi un JETPI avec les gouvernements africains. Il n'y a que 6,6% dans le JETPI sénégalais qui sera réalisé sous le format de subvention à l'État. Et ça pose un problème dans un pays où, si vous avez un peu suivi les récents développements au Sénégal, le pays a un taux d'endettement de 119%. Et donc des finances publiques fortement éprouvées. C'est ce que montre le dernier rapport de FMI et aussi toutes les prévisions du gouvernement montrent qu'en réalité, on est dans un cycle vraiment compliqué d'endettement. Comment envisager de s'engager dans la transition énergétique si l'aide au développement, entre guillemets, qui devrait aussi soutenir ces États, se fait sous le format de prêts avec bien sûr des intérêts qui vont aller encore dans les États occidentaux ou au niveau des multinationales. Et ça me permet, juste avant de m'en arrêter là pour l'instant, d'aborder la question de la définition de la transition juste et surtout du colonialisme vert. Pour Oxfam et c'est bien, nous avons participé quand même, je pense, à beaucoup de travaux d'Oxfam et nous partageons cette même préoccupation par rapport au colonialisme vert. Mais pour nous, le colonialisme vert, il y a aussi une autre manière de l'aborder. Dans la plupart de ces projets de transition énergétique, il s'agit en réalité d'ouvrir le marché du renouvelable en Afrique à des multinationales européennes. Ça aussi, c'est une autre forme de colonialisme vert. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'ils vont extraire les minéraux stratégiques pour la transition pour le continent européen ou pour l'Occident. Le problème, c'est que aussi, même si on fait la transition au niveau de l'Afrique en tant que telle, ça se déroule aussi selon un modèle qui peut paraître colonial parce que toutes les conditions sont réunies au niveau des conventions, des accords, des négociations pour que ça se traduise à une ouverture du marché du renouvelable sur le continent africain aux multinationales qui sont au niveau de l'Occident ou tout simplement qui sont en Europe. Donc, il n'y a pas de rapport équilibré de pouvoir dans les négociations, dans les modèles économiques qui font que d'une manière ou d'une autre, l'Afrique pourrait s'y retrouver et pourrait effectivement asseoir le développement durable. Ça peut paraître pessimiste finalement, Fabien, comme vous disiez, de tous les côtés, comment on va argumenter autour de cette transition énergétique. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur vraiment ce qu'il faut rééquilibrer pour que ça puisse marcher. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais jouer un peu le rôle d'un agent provocateur, si je peux. Il y a 2 ans qu'il y avait un changement du régime au Sénégal. Ce régime était majoritairement élu par la jeunesse, aussi pour la promesse qu'ils vont rééquilibrer les relations de pouvoir, notamment avec la France. Et les nouveaux dirigeants insistent vraiment sur la notion de la souveraineté. Ils parlent souvent des rapports, des accords gagnant-gagnant. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire gagnant-gagnant vraiment pour le Sénégal. Et juste pour ajouter une autre question, je pense Alexandre vient de dire que genre, la plupart des ressources naturelles qu'on a besoin pour nos ordinateurs et pour les portables se trouvent en RDC. Donc normalement, les pays devront avoir un pouvoir de négociation. Pourquoi ils n'arrivent pas de imposer leurs conditions à des partenaires internationaux?
Merci. Et effectivement, il s'agit d'une question assez provocateur. Malheureusement, moi, je ne suis pas la casquette politique, donc ça, je ne suis pas très experte sur ce genre de questions, mais quand même, je vais essayer de répondre. Le nouveau régime au Sénégal est effectivement porté, comme vous l'avez dit, par la jeunesse. Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand même, il y avait beaucoup de dérives selon la majorité de la population sénégalaise du régime sortant. Et effectivement, ils ont fait aussi leur campagne, comme vous l'avez dit, sur l'idée d'un retour au panafricanisme, des idéaux de souveraineté. Et à la limite, des fois, on a même une certaine forme de souverainisme. Mais je pense pourquoi ce régime est arrivé à imposer ce genre d'idées, c'est parce que tout simplement les gens ont vu les déséquilibres quand même. Ce n'est pas seulement le Sénégal que la France, dans ses rapports, avait avec la plupart des pays de la sous-région, surtout, en tout cas les pays francophones, surtout. Et ça, c'est mis sur la table, effectivement, comme argument, ça marche, ça mobilise, et c'est comme ça qu'ils ont mobilisé une partie de la jeunesse autour de cette idée d'une Afrique souveraine, d'une idéologie encore panafricaine, nous ramenant vers Senghor, vers tous les pères du panafricanisme. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'établir des relations gagnant-gagnant? C'est là où le challenge se pose. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose au régime, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Et ça, c'est une réponse qui n'est pas facile, qui n'est pas donnée, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, le pays est particulièrement endetté, 119% de son... Le taux d'endettement dépassant 119% de son PIB. Dans ce contexte, si on veut faire être indépendant, ça devient beaucoup plus difficile, parce qu'on est toujours obligé de recourir d'une certaine manière à l'aide extérieure, de recourir d'une certaine manière à des accords de coopération qui vont permettre quand même de soutenir certains secteurs clés de l'économie. Donc c'est vraiment problématique, mais du point de vue idéologique, ça a tout son sens, parce qu'on est tous d'accord que les rapports doivent changer. On ne peut pas, et je pense que ça c'est pour le bien de l'humanité, je pense que personne ne devrait se sentir à l'aise aujourd'hui de dire je suis celui qui domine, j'impose ce que je veux parce que tout simplement j'ai les moyens économiques. Et je pense que c'est là où le gouvernement sénégalais, avec pas mal peut-être d'autres dirigeants sur le continent sud-africain, plutôt sur le continent africain, sont en train d'essayer de mobiliser la jeunesse autour des idées qui vont les aider à s'imposer davantage. Mais cela suppose pour les gouvernements africains de mieux s'outiller et de renforcer leur capacité en termes de négociation. Je pense que si on n'a pas une bonne capacité de négociation dans les rapports, qu'ils soient politiques, diplomatiques ou tout simplement économiques, il est très difficile d'imposer ces idées. Nous l'avons vu avec le Diétpi, je pense que vous en connaissez quelque chose et j'échange beaucoup avec vous autour de ça. Est-ce que nous avons à la place des ressources humaines qui nous permettent vraiment de nous engager dans des négociations qui permettent d'imposer un peu la vision de cette jeunesse ou la vision du régime? L'autre point, bien sûr, on ne va pas se voiler la face. Le continent aussi fait face à pas mal de limites, hein, que ce soit la corruption, la malgouvernance et beaucoup de choses aussi qui ne renforcent pas le pouvoir de négociation tant du point de vue économique que politique de nos dirigeants. Sont des éléments qui sont là et qu'il faut revoir. Et je te remercie pour la question, comme tu disais, un peu provocatrice. Hein, et tu as vu que, n'étant pas politicienne, j'ai souffert un peu pour répondre.
Alors déjà, bonsoir tout le monde. Et je remercie toute l'équipe de Cluny et de la Fondation Energy People et mes confrères, consoeurs ici. C'est un bonheur pour moi d'être là et de pouvoir échanger et partager avec vous. Je tiens aussi à saluer le courage qu'il a fallu de tenir une table ronde qui s'intitule « Peut-on penser et faire une Europe décoloniale ?» Je crois que dans beaucoup d'espaces universitaires ou médiatiques, cela ferait sauter pas mal de personnes au plafond. On se dirait, oh mon Dieu, c'est quoi ce truc de wokiste, ça y est. Enfin voilà, donc vraiment, et j'espère qu'il y aura d'autres tables rondes à ce type dans d'autres espaces. Donc, mais déjà, c'est la première table ronde à laquelle je participe où on pose des choses comme cela à l'échelle européenne. Donc vraiment, je tiens à saluer ce courage, au fond. Et je pense que c'est pas un hasard aussi que ça vienne de la fondation. Et donc mon intervention, elle va essayer de prendre pour centre la question de penser. Hein, peut-on penser une Europe décoloniale? Et au fond, ça voudrait dire quoi? Comment le faire? Alors effectivement. J'ai envie de rebondir aussi sur ce qui a été dit, mais je commence par faire un petit propos. Peut-être l'une des premières questions qui m'est venue quand je me dis, bon, Europe décoloniale, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est finalement une question qui est à la fois politique, conceptuelle, mais en fait, c'est quoi l'Europe? C'est qui l'Europe? Quand on dit nous, Européens, de qui parle-t-on? Qui sommes-nous véritablement? Et donc ce sont des grandes questions auxquelles je ne pourrais pas répondre à moi tout seul. Mais par contre, juste apporter une précision et quelque chose qui reste souvent impensé dans l'imaginaire de l'Europe. Fabien, tu l'as évoqué. Et l'un des impensés géographiques, politiques et historiques est effectivement la place de ce qu'on appelle en France les territoires d'outre-mer. Ce qu'on appelle à l'échelle européenne les régions ultra-périphériques et les pays d'outre-mer. Ce sont tous ces territoires qui sont généralement issus des colonisations des empires européens, qui sont classés selon des catégories bien particulières, donc régions ultra-périphériques, il y en a 9, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores et Madère de Portugal, les îles Canaries d'Espagne. Les pays d'outre-mer comprennent la Polynésie, Kanaky, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Curaçao, Aruba, Sainte-Martine, Saba, Saint-Eustache, Bonaire, le Groenland. Bon, et quelques pays aussi. Enfin bon, avant, il y avait des possessions britanniques qui sont parties. Bon, enfin voilà. Mais en fait, pourquoi j'attire l'attention sur ces territoires, c'est qu'on ne peut plus penser l'Europe uniquement comme étant située géographiquement dans cet espace du continent européen. Et ces petites poussières de territoires, comme dirait notre regretté Aimé Césaire, en fait, se situent aux marges politiques, symboliques de l'Europe et de la France, du coup, mais pourtant au centre écologique et stratégique de cette Europe. Pour donner quelques exemples. Écologique, pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui, comme dans le cas de la France, concentrent une importante partie de la biodiversité, 80% de la biodiversité française, 97% de la zone économique exclusive de la France, qui place la France en tant que deuxième pays marin, enfin maritime, au monde derrière les États-Unis, c'est le fait de ces territoires. Si on enlève la Polynésie, qui a des velléités d'indépendance, si on enlève la Kanaky, la France passe du deuxième rang au 17e rang, je crois, 18e rang. Enfin, donc, voilà. Sachant qu'elle est garante, mais aussi elle possède officiellement tout ce qui est contenu dans ces espaces marins. Bon. Ce sont quelques exemples. Mais pourtant, ces territoires sont marginalisés. En Guyane, j'étais dans un colloque sur les cancers outre-mer il y a 2 jours, où on apprend que si on veut se faire soigner d'une chimio, par exemple, d'un cancer, on doit faire 200 km aller pour aller faire son traitement, et puis 200 km retour. Mais on n'a aucun problème à envoyer le James Webb télescope avec la station spatiale de Kourou. On n'a aucun problème d'avoir une station d'écoute des renseignements français à Mayotte, mais proposer d'enlever le droit du sol. On n'a aucun souci à vouloir exploiter, y compris au niveau de l'Union européenne, le nickel de Kanaky, mais, comme on a vu l'année dernière, à tuer des Kanaks parce qu'ils demandent le respect de leur souveraineté sur leur terre. On n'a aucun problème à consommer les bananes de Martinique et de Guadeloupe, mais le droit à l'eau en Guadeloupe n'est toujours pas respecté, et bien sûr, aucune justice sur l'affaire du chlordécone. Et si je parlais du Groenland, c'est quand il y a eu la controverse autour de Trump l'année dernière, qui disait ah ben, je vais acquérir le Groenland, il y a eu quelques remarques qui consistaient à défendre le Danemark. Et puis, on passe à côté du peuple inuit qui habite le Groenland, donc qui ont un premier ministre qui s'appelle Mouté Egede, je ne sais pas très bien le prononcer, mais qui ont aussi en fait, envie de pouvoir avoir le droit d'autodétermination. Donc au fond, tous ces territoires, ce sont des territoires qui sont à la fois peuplés par un ensemble de peuples autochtones, dont les droits fondamentaux sont bafoués, avec une surexposition aux enjeux climatiques, avec une violation des droits de l'homme, y compris par l'État français, voire par exemple, et la force militaire de l'État français, qui est la gendarmerie. Ce sont des territoires qui sont extrêmement militarisés, voire le cas de Jean-Claude Jean-Pierre en Guadeloupe, mais il y en a bien d'autres. Et puis on voit le rapport discriminant, c'est-à-dire que quand on est dit métropolitain et qu'on va dans les outre-mer, alors là on est valorisé, on a accès à des postes. Quand on est dit ultramarin, j'aime pas ce terme, et qu'on arrive en hexagone, alors là on est discriminé. Quand je suis arrivé pour faire mes études ici, parce que la formation en philosophie n'était pas présente en Martinique, j'arrive, je cherche un logement en région parisienne, je montre les informations de mes parents, on me dit, ah, monsieur, nous on veut des garants français. Ouais, ça fait rire, mais ce n'est pas si rigolo. Et ce qui caractérise en fait ces territoires, c'est qu'on se situe aussi dans des zones frontalières, avec du coup une manière de penser le monde, la terre et du coup l'écologie, qui est traversée de peuples, de mouvements, de migrations. Enfin, je compte Fatim parce qu'elle a une expérience là-dessus qui peut-être pourra intervenir. Mais je pourrais continuer comme cela, mais je dirais 2 choses qui permettent de rebondir du coup à ce qui a été dit, y compris sur la notion de colonialisme vert, mais aussi la notion même de néocolonialisme. Finalement, comment penser cette Europe décoloniale et comment penser ces formes qui sont très bien explicitées là, de colonialisme vert. Et je dirais attention avec cette expression colonialisme vert, non pas par rapport à sa pertinence, mais attention avec l'illusion qu'elle pourrait donner qu'il s'agit de quelque chose de bien précis, bien restreint. Au fond, ce que je dis, c'est qu'à mon sens, on ne peut pas, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais il ne faudrait pas le faire, dissocier ce colonialisme vert finalement d'une constitution coloniale de l'Europe historique au cours des 5 derniers siècles. Et que ce que l'on voit et que l'on caractérise aujourd'hui comme colonialisme vert est au fond rien de nouveau par rapport à cette constitution coloniale. On pourrait parler de la France-Afrique, pour rappel, qui consistait aux anciens... enfin. La France garantissait aux espèces de personnes au pouvoir, tyrans, de pouvoir mobiliser l'armée française pour les préserver d'un coup. mais à condition que ces tyrans autorisent l'exploitation des ressources minières. Et pour pouvoir penser une Europe décoloniale, il faut qu'on arrive à hériter de cette question, de cette constitution coloniale. Il y a une façon de le faire. Parmi cette histoire coloniale, il faut quand même rappeler la conférence de Berlin 1885, où un ensemble de pays européens se disent « bon ben voilà, nous allons nous répartir l'Afrique ». Au point où Léopold II se dit « ben moi je vais avoir comme territoire privé le Congo, dont on parlait avec le cobalt, etc. » Et donc, comment hériter ? Il y a une manière de le faire qui consiste à dire « bon ben voilà, oui on a eu des empires esclavagistes et coloniaux, mais il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais on regardait, vous êtes indépendants, on se lave les mains et ça y est, c'est fini ». Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, très naïf, et peut-être même un peu paresseux, de se dire, tiens, on a une manière de faire, c'est-à-dire une manière de considérer des personnes qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même phénotype, qui n'ont pas la même couleur de peau, une manière de les déshumaniser, une manière d'exploiter les ressources et les paysages que ces personnes habitent, et que cette façon de faire va changer du jour au lendemain parce qu'il y a eu une abolition, une indépendance ou alors une intégration dans l'ensemble républicain, ce qui est le cas des départements d'outre-mer français. Et cette continuité, c'est la différence entre colonisation et colonialité. La colonisation est un processus économique, militaire, politique que l'on peut dater un début, une fin. 1635 pour la Martinique, officiellement 1946, la fin, puisque nous ne sommes plus une colonie. Mais cette façon de faire, cette colonialité, cette façon de se penser sur Terre que j'appelle l'habité coloniale, elle se prolonge. Et il me semble que pour pouvoir imaginer, inventer une Europe coloniale, il faut pouvoir nouer des relations décoloniales qui durent dans le temps. Ce n'est pas un geste, deux gestes ponctuels. Et dernier point pour ne pas être trop long, pour donner un exemple de ces gestes. Ces gestes, parfois, ça passe par des actes de réparation. La réparation n'est pas uniquement quelque chose de financier. C'est pas quelque chose, bon tiens, voici tel sou, mais c'est une manière de créer et d'inventer un autre monde, y compris avec celles et ceux qui ont été lésés par ce processus colonial. Et puisque la question de la table ronde est celle de penser, nous avons aussi aborder la manière dont les institutions en Europe, mais aussi en France, enfin particulièrement en France, dont la tâche est, entre guillemets, on peut dire, de produire de la pensée. La pensée se produit dans tous les espaces, militants, agricoles, mais aussi universitaires. Et on a à s'interroger pour se dire, mais en fait, qu'est-ce que la colonisation et qu'est-ce que cette constitution coloniale de l'Europe a fait à nos institutions de production de savoir et de connaissances européennes ? Par institution de recherche, je pense par exemple au musée, au muséum. Nous avons des espaces de production scientifique qui sont littéralement posés, qui ont dans leur sous-sol des restes humains, qui sont issus de ces territoires. Comment on hérite de ça, sans juste le glisser sous le tapis ? Nous avons des théories qui ont... des théories racistes, des théories eugénistes, des théories qui ont notamment donné lieu à certaines des plus grandes catastrophes et génocides au monde, y compris la Shoah. Nous avons une histoire de discrimination de certains corps dans l'accès à la production des savoirs. Et sur la question écologique, la question des connaissances scientifiques est extrêmement importante. Parce qu'on ne peut pas avoir une réflexion critique sur l'enjeu écologique si on n'a pas une réflexion critique sur la manière dont les connaissances qui nous permettent de penser ces enjeux sont produites. Et si ces connaissances sont produites encore d'une manière verticale, du nord vers le sud, entre guillemets, alors on a beau être souverain, on a beau être indépendant, on sera toujours dépendant finalement des formes de savoir. Et c'est ce que montre Guillaume Blanc dans son bouquin avec les experts qui viennent. Et là où la France, pour moi, a quelque chose de comme un orgueil mal placé, c'est que ce n'est pas le seul empire colonial et anti-esclavagiste qui a à négocier avec son histoire. En fait, plein d'autres pays sont passés par là. Le Brésil, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne. Et beaucoup des instances, je suis chercheur au CNRS, donc je navigue au sein de ce milieu de la recherche, beaucoup d'instances de recherche se sont posé la question, mais comment nous, en tant qu'université, en tant que centre de recherche, nous pouvons faire le deuil de ce passé et inventer d'autres manières d'être. Cela a donné lieu à des projets, à des rapports, à, parmi les plus grandes universités, Harvard University, qui dit, ben tiens, l'esclavage a profité à certaines personnes qui ont bâti l'université, a profité des théories racistes, etc. Comment nous, on fait en sorte de proposer des actes de réparation ? Yale, Glasgow, le Max Planck Institute également a fait des gestes comme cela. Au Brésil, on a mis en place des quotas qui permettent de changer sociologiquement la proportion des étudiants qui ont accès aux espaces universitaires de ceux qui avant n'y avaient pas accès. Ça ne règle pas tout, mais ce sont des pas. En Nouvelle-Zélande, pareil. Et là, en France, on a une posture qui est extrêmement paresseuse, qui consiste à dire, bon, nous sommes universalistes, donc il n'y a rien à faire. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus énergivore de se dire, bon voilà, on va essayer d'inventer d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, y compris dans ces activités qui sont censées nous donner des connaissances sur le monde.
Merci beaucoup, Malcolm. Juste aussi une petite question pour toi. Tu as dit qu'il faut nourrir des relations décoloniales qui durent dans le temps. Et tu as cité comme exemple les réparations. Au Sénégal, l'année dernière, on a fêté pour la première fois la commémoration du massacre de Tiaroy, des tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés par des soldats français. La France a reconnu que 6 personnes étaient mortes pour la France. Ça aussi a suscité beaucoup de débats, pourquoi seulement 6 personnes, etc. Mais c'était un premier acte. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Et peut-être aussi, quand je parle parfois avec la jeunesse sénégalaise, ils disent oui, reconnaître le mal et l'histoire coloniale, c'est important. Mais on veut parler de l'avenir et on veut sortir de cette posture de victimisation. Genre, quelle sera ta réponse à cela?
Il y a alors. Donc je vais répondre aux deux questions et je vais. Je vais faire une analogie, par exemple, avec ce que la France a fait par rapport à l'abolition de l'esclavage. Enfin, la France, en 2001, à travers Taubira Delanon notamment, un projet de loi, reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et la particularité des crimes contre l'humanité est qu'ils n'ont pas de prescription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date à partir desquelles il est trop tard pour juger de ce crime. Dans cet acte, en fait, comme tout crime, y compris la loi pénale, en fait, tout crime, pour être crime, doit donner lieu à des réparations. Dans cette loi, le quatrième article que Taubira Delanon voulait mettre, celui des réparations, a été mis de côté. Et des associations, y compris en Martinique, ont porté plainte pour avoir ce crime reconnu, mais rien n'a été fait. Mais pour comprendre à quel point c'est compliqué, c'est que l'abolition, enfin la deuxième abolition de l'esclavage en France, puisqu'il y en a eu deux, une au moment de la Révolution française grâce à la révolte des esclavisés haïtiens, puis après Napoléon rétabli en 1802, et enfin la deuxième en 1848. Mais au moment de 1848, ce qui se passe, c'est qu'on a une loi qui, du coup, abolit l'esclavage. L'abolition de l'esclavage n'est pas une justice. C'est une loi, mais ce n'est pas une justice, ce n'est pas la reconnaissance de tort auprès des personnes qui ont été esclavisées. Au contraire, du point de vue de la loi française, l'abolition de l'esclavage a été un crime contre les maîtres, puisqu'on leur spoile de leur possession humaine, au point où une autre loi a été passée en 1849 pour dédommager, réparer les maîtres de leur perte de l'équivalent de 7% de la dépense publique. Haïti, on voit aussi comment l'indépendance a été faite. Mais du coup, quand on arrive en 2001, qu'on passe cette loi et que la reconnaissance devient quelque chose dont on se part, que de mots, mais qu'il n'y a pas de gestes concrets, ça perd de son poids, ça perd de son sens. Et l'enjeu pour le futur, je viens directement, exiger justice, ce n'est pas exactement une forme de victimisation ou de position, non. C'est vraiment dans le fait de restaurer ou de rendre possible un monde entre des personnes qui ont eu différentes positions dans ces crimes. Et que si, par exemple, le rapport de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie sur la restitution des œuvres spoliées, il précise très bien qu'il ne s'agit pas uniquement de rendre parmi les 80 000 objets d'art ou de culte qui ont été spoliés, dont une partie sont au musée du Quai Branly dans différents territoires. Ce n'est pas uniquement une transaction bancaire, comme dirait Paulo Freire. Il s'agit plutôt du processus qui est rendu possible par cela, et des échanges, des discussions, des processus historiques, de ce qui est mis ensemble dans ce processus. Et c'est ça qui est beau. Et c'est cette façon de faire, moi, qui m'inspire, qui dit, ben tiens, peut-être que maintenant, on pourra essayer de faire de la recherche autrement. Peut-être que maintenant, on pourra essayer de vivre, d'habiter, de réfléchir à ce qui fait monde autrement, et sortir, il y a des principes qu'on ne peut pas bafouer, qu'on ne peut pas ignorer. Si on ne reconnaît pas la déshumanisation, comment peut-on reconnaître un humain en l'autre ? C'est-à-dire qu'on a habitué les habitants. 1931, l'exposition coloniale, 2 millions de visiteurs, en fait, où on est habitué, on imprime dans notre imaginaire que les peuples non européens, dits non blancs, non catholiques, etc., sont des personnes moins qu'humaines. Et donc ça passe par des actes qui durent dans le temps pour pouvoir changer cet imaginaire et rendre possible. Et on verra que ce qui est rendu possible comme horizon politique, peut-être ne reprend pas les mêmes catégories coloniales, nord, sud, blanc, noir, catholique, non catholique, etc., mais donne lieu à des communautés de monde, de personnes qui ont envie de vivre, qui ont envie de désirer, de bien manger, de bien boire, d'avoir leurs droits fondamentaux respectés. Voilà.
Merci beaucoup. Gwendoline, toi, tu étais membre au sein du Parlement européen. On a beaucoup parlé maintenant de comment rendre justice, comment rééquilibrer un peu le rapport de force, qu'est-ce que ça ne marche pas. Selon tes expériences, comment on arrive de aussi créer une majorité au sein du Parlement pour une démarche plus décoloniale? Et deuxièmement, et je pense que ça c'est aussi un sujet dont tu peux parler, l'Europe semble prête à accepter le bien, consommer le bien qui vient d'ailleurs, de faire importer les ressources naturelles, mais en ce qui concerne les personnes qui sont là-bas, ils ont une mobilité réduite. Que dis-tu par rapport à ça ?
Oui, bonsoir. Donc je suis une invitée de dernière minute et je ne suis pas du tout experte du sujet, mais j'ai eu envie de venir parce que, comme Malcolm l'a dit, le titre m'a fascinée. Je pense que cette question n'a jamais été posée, en fait. Et je pense que c'est passionnant et c'est essentiel. C'est-à-dire que, et je vais faire un petit point préalable, c'est que je suis dans un moment de grande déprime personnelle et politique. Et je suis pessimiste pour la première fois de ma vie à 48 ans, mais vraiment pessimiste. Et donc, je ne sais pas comment on va faire pour la faire, cette Europe décoloniale. Et à mon avis, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est un des éléments, mais c'est un impensé. C'est totalement un impensé. Le fait que l'Europe a ses racines dans ce colonialisme est un impensé. Il n'est jamais travaillé. Donc, à partir de là, on sait très bien que ce qu'on n'a jamais travaillé, on ne peut pas le dépasser. Et je pense que c'est important d'abord de repartir du fait que de cette histoire de l'Union européenne. D'abord, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu un projet Eurafrique à un moment, c'est pour vous dire. Je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès le départ. Mais surtout, cette Union européenne, elle se crée pour éviter évidemment la fameuse histoire d'éviter à nouveau les guerres sur le continent européen, mais elle se crée d'États-nations impérialistes, colonialistes. Les premiers, les grands six premiers pays sont tous des États nationalistes, des États-nations impérialistes, et ceux qui les rejoindront dans les premières années aussi. Ils arrivent avec leurs colonies, ça a très bien été dit, du coup c'est bien, je vais pas répéter ce qu'a dit Malcolm. Ils arrivent tous avec ça, et ils s'inscrivent dès le départ dans cette relation-là au reste du monde. Et pour beaucoup, la décolonisation vient juste à peine de se faire ou elle n'est pas encore faite. Et ils continuent à considérer tous ces pays avec lesquels, dont ils ont été les colons comme encore des dépendances. Il y a une chose qui m'a marquée, c'est que Clément Beaune, donc je ne sais pas si c'est en 2021 ou en 2022, je ne me rappelle plus, il fait sa carte de vœux. Hein, vous recevez quand vous êtes parlementaire, vous recevez des kilomètres de cartes de vœux, des kilos de cartes de vœux de tout le monde en janvier. Et donc, il fait sa carte de vœux. Et alors, vous les regardez, enfin, moi, je ne les ai jamais regardées. Mais celle-là, elle m'a marquée, donc je l'ai regardée parce que du coup, il avait fait une carte tout fier de lui. Donc, c'était une carte, c'était un tracé minimaliste de l'Union européenne et de toutes les colonies, ex-colonies, qui effectivement sont toujours parties de l'Union européenne. Alors, vous pouvez vous dire, c'était beau, il voulait leur rendre hommage. Moi, ça m'a frappée et je l'ai vu, et je pense que j'ai raison, comme aussi cette idée qu'il n'avait pas du tout travaillé la question et que lui, ça ne le choquait pas de faire. Et donc, le reste du monde était effacé, mais il y avait juste ça, il y avait l'Union. Et la France est la plus grande de celle qui a encore ses colonies. Ensuite, il y a comment ça se construit l'Union européenne. Vous le savez, c'est d'abord un process économique, c'est surtout une Europe économique, une Union européenne économique, et elle se fait à travers les traités. Et dès le départ, les traités, ils ont été pensés comment? C'est je te revends mon poulet aux hormones, je te prends tes bananes trois fois moins chères, etc., etc. On le sait, hein, c'est des années et des années d'échanges économiques. La prospérité, et c'est terrible parce qu'on en est tous... on a tous été plus ou moins bénéficiaires à un moment donné. Les citoyens, la prospérité des citoyens européens, elle s'est faite. Hein, tous les mouvements altermondialistes l'ont très bien montré sur des décennies d'exploitation de tous ces pays-là, et notamment à travers les traités de libre-échange, qui ne sont pas du tout des vrais traités de libre-échange, qui sont beaucoup de monnayage avec tous ces pays de « toi, tu vas me revendre tes matières premières très peu chères, et moi, je vais en plus t'envoyer ma production ». Puis il y a eu la désindustrialisation, donc là on va polluer le reste du monde et on va arrêter de voilà, et on pense que nous on n'aura que des cadres blancs qui vont penser les choses. Puis on se rend compte que ça marche pas, et donc depuis quelques années on a ces deux principes, la souveraineté européenne, numérique notamment et militaire, et la transition énergétique. Et donc là, les écolos, on a une vraie responsabilité parce qu'on a beaucoup. Voilà. Mais la transition énergétique, effectivement, ça veut dire nous, on façonne nos voitures électriques, notre énergie renouvelable, et puis on vous prend tous vos produits, vos matières premières, et évidemment les conditions dans lesquelles tout ça est fait, on s'en tape totalement. Donc, en plus, depuis quelques années, on a renforcé quelque part. Et on se retrouve effectivement, hein, tu l'as très bien dit chez les Verts allemands, dans ce paradoxe d'aujourd'hui se dire comment on fait, nous, écolos, face à cette question-là. Parce qu'on veut la transition énergétique, mais aujourd'hui, la transition énergétique, ça veut dire ça. Et puis, je voudrais parler deux secondes de la diplomatie. La diplomatie, c'est pas une vraie diplomatie européenne, ça vous le savez tous. Donc, c'est la diplomatie de ces anciens États-nations impérialistes qui s'ajoutent les uns aux autres. Et donc, c'est la France-Afrique en France depuis des années, mais les Espagnols, les Portugais, les Pays-Bas, enfin, la Belgique avec le Congo, tous. Donc, en fait, on ne fait que produire ça comme diplomatie, avec tout ce que ça importe de interférence dans leur politique, de chantage régulier, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, on a en général arrêté la diplomatie, parce qu'on n'y met plus d'argent. En France, on a tué nos diplomates, mais en vrai, c'est fréquent dans beaucoup d'autres pays. Donc, on a remplacé ça par la diplomatie économique. Et c'est ce que a été très bien exprimé. C'est-à-dire qu'on a Vivendi et les autres qui vont partout. Et c'est ça. Et donc, nos chefs d'État passent leur temps à aller faire des voyages, des missions dans ces pays-là pour, en fait, faire des super contrats juteux pour nos grandes multinationales. Boum, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Ukraine. Donc là, en plus, on rajoute un nouveau niveau. Il faut qu'on arrête d'être dépendant de la Russie et des énergies fossiles de la Russie. Donc, il va falloir qu'on aille chercher l'énergie fossile ailleurs. Donc on régresse, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu terrible, mais voilà. Donc, je ne suis pas très optimiste, comme vous l'aurez pensé. Ensuite, il y a un sujet... Moi, je ne vais pas plus aborder les questions environnementales parce que je pense que ça a été très bien fait par des intervenants qui sont beaucoup plus compétents que nous. Mais je vais rajouter un autre élément qui me semble terrible, enfin moi qui me traverse, vraiment qui me tracasse, c'est la question de l'externalisation des migrations, l'externalisation des frontières. Qu'est-ce qu'on est en train de penser? Alors, l'externalisation de la migration, ça fait longtemps. Hein. On a depuis longtemps sous-traité à la Turquie, à la Libye et à d'autres le fait d'avoir des gardes qui empêchent les migrants de passer. Évidemment, on sait très bien que bon, ben, ils les tuent un peu. Hein. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est à eux de gérer. Donc, on leur donne de l'argent pour ça. Mais aujourd'hui, donc, on a accentué ça, on l'accentue de plus en plus. On est de plus en plus en train de mettre nos frontières de plus en plus loin parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'ils se rapprochent trop près. Parce que dès qu'ils se rapprochent trop près, ils viennent vraiment beaucoup. Alors, il faut vraiment qu'on mette les frontières de plus en plus loin. Donc, on a eu ça. Et puis, on a eu, et ça, c'est une formidable inspiration britannique. Donc, c'est les Anglais qui ont commencé à penser ça. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu l'idée du Rwanda. Donc les Britanniques se sont dit, on en a marre des migrants, donc d'abord on sort de l'Union européenne, parce que ça va être vachement pratique, les migrants vont arrêter de venir, bon ça n'a pas marché, il faut une autre solution. Bon alors ces migrants, on va les renvoyer, donc on est de toute manière depuis des années dans l'Union européenne sur cette question du retour, hein. Donc on paye les gens pour qu'ils repartent dans leur pays, on essaye de les payer pour qu'ils repartent dans leur pays, et puis l'Angleterre s'est dit, bah, faut carrément les mettre quelque part, quoi. Parce qu'en plus, quand on essaye de retourner dans un pays, souvent les pays ne veulent pas, ils ne font pas l'effort. Donc il faut qu'on trouve un pays qui accepte de les accueillir. Donc ils ont créé, ça a été un fric monstrueux, hein, c'est énorme l'argent qu'ils ont mis dedans, ils ont créé une espèce de mini-ville au Rwanda, un quartier qui est tout propre, c'est eux qui ont tout payé, les locaux, etc., etc. Et ils essayent de faire un deal avec, enfin ils ont fait un deal avec le Rwanda, on vous envoie des charters de personnes qui viennent de partout dans le monde. Hein. Donc, vous êtes afghan, vous êtes syrien, et voilà, vous vous retrouvez au Rwanda, évidemment, c'est logique. Et puis, voilà. Alors, pendant très longtemps, la justice anglaise l'a refusé en disant que, c'est de la déportation d'humains, donc en fait, ça ne se fait pas. Il y a carrément eu un Premier ministre pour proposer de sortir de la Convention du Conseil de l'Europe et de la Convention des droits de l'homme, etc., etc. Donc, des idées en plus de Churchill, hein, au départ, parce que sinon, c'est compliqué, parce qu'après, la justice nous dit qu'on est censé respecter ses lois, donc il faut qu'on en sorte. On s'est dit, bon, c'est les Anglais, ils sont sortis de l'Union européenne, ils ont un gouvernement un peu fou, voilà, ça va pas. Sauf qu'après, l'idée a migré chez des sociodémocrates du Danemark. Donc le Danemark s'est dit, je vais faire la même chose. Effectivement, pour l'instant, les lois européennes ne le permettent pas. Donc on est actuellement en train de changer les lois européennes. Les derniers textes qui sont en discussion, directive du retour, directive de l'externalisation des migrations, directive des pays sûrs, enfin bon, c'est toute une liste de textes suite au pacte asile-migration qui sont en train d'être discutés actuellement entre les trois institutions européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement. Ce sont des textes qui sont en train de réfléchir à comment on peut avoir des centres dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et des Balkans, parce qu'on se dit aussi que ça peut être pratique, donc l'Albanie, la Moldavie, la Géorgie, etc., pour renvoyer tous ces gens. Voilà, donc aujourd'hui, on éloigne les frontières de plus en plus et en plus, on essaye de penser. Et donc pour moi, là, bon, il y a déshumanisation. Mais ça fait un moment qu'il y a déshumanisation. Il y a déshumanisation déjà dans Dublin. Parce que Dublin, c'était déjà l'idée, là où vous arrivez, vous êtes censé rester. Donc tant pis si toute votre famille, vous avez des liens familiaux dans un autre pays, vous êtes arrivé en France, mais vos liens familiaux sont en Allemagne. Donc il y avait déjà déshumanisation. Là, il y a une déshumanisation supplémentaire, mais il y a accaparement de l'espace. C'est-à-dire que le reste du monde est un lieu où nous, Européens, allons traiter nos problématiques que nous avons créées de toutes parts, puisqu'en plus, on n'a pas de vrai problème de migration, puisqu'on a un déficit démographique immense dans l'Union européenne. Donc, en fait, on a besoin de ces gens, mais ce n'est pas grave. On va les mettre là. Et on s'accapare ces espaces et on ne sait pas juste, on discute gentiment. Alors, les gouvernements sont parfois très volontaires. Hein. Le gouvernement du Rwanda, c'est lui-même qui a proposé le projet. Mais pour d'autres gouvernements, c'est en fait aussi par le chantage qu'on l'obtient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit au Maroc, on dit à la Tunisie, on dit à un certain nombre de pays, si vous voulez continuer à avoir notre aide sur d'autres projets, il faut accepter de mettre en place ces centres et de mettre en place toutes ces logiques d'externalisation de la migration. Donc voilà, je voulais souligner cet aspect-là, qui n'est pas la question des ressources extractives, mais qui est aussi une question extrêmement importante, il me semble, de notre capacité à penser le reste du monde encore comme nos dépendances. Je voudrais juste faire un petit point, mais je ne vais pas le prolonger beaucoup. Je pense qu'il y a aussi un petit problème sur comment cette Union européenne, elle s'identifie uniquement comme un espace de chrétienté de plus en plus. Moi, j'avais été frappée quand il y a eu la guerre en Ukraine et qu'on a tout de suite proposé la protection temporaire, qui est un système qui avait été inventé en Europe au moment de la guerre des Balkans pour que les gens puissent venir plus facilement. Donc, vous le savez peut-être, hein, on l'a vu, on a accueilli les Ukrainiens sous ce système-là. Donc, quand vous arrivez, tout de suite, vous avez le droit à des papiers, etc., etc. On l'avait demandé, il y a des années en arrière, les écolos et la gauche l'avaient demandé au moment de la Syrie. Et ça n'avait pas été possible. Parce que la Syrie, c'est quand même des étrangers et c'est quand même des gens qui ne sauront pas s'intégrer. Alors que les Ukrainiens, comme ils sont chrétiens, nécessairement, ils vont savoir s'intégrer. Donc ça m'avait déjà frappé. Mais tous les derniers sondages et réflexions qui ont été faits, des grands sondages qui ont été faits en Europe ces dernières années, cette question de la chrétienté, elle est en train de revenir fortement. L'Europe devrait s'afficher plus comme une pensée chrétienne, etc., etc. Et du coup, on sent aussi que ça, c'est dans cette identification-là comme un continent uniquement chrétien, on a une problématique, encore une fois, de se retrouver dans ses racines historiques d'empires coloniaux. Et dans les questions de qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse, donc ça a été dit, il y a un immense travail de décolonisation des pensées à faire qui n'a jamais été fait. La France est particulièrement mauvaise à ça. Il y a d'autres pays qui travaillent un petit peu mieux, mais en France, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, on est tout de suite accusé de wokisme, etc. Mais en réalité, ce travail-là, il a été très peu fait. Donc, il y a ce travail-là à faire. Il y a repenser notre éducation, c'est-à-dire que quand on apprend à nos enfants l'histoire européenne, on n'apprend rien de tout ça. Donc, on a aussi cette question-là. L'histoire européenne, c'est Schuman, c'est machin, c'est le charbon. Mais il y a comment on éduque nos enfants. Il y a évidemment la question de retravailler la diplomatie. Il y a la question inévitable, et notamment pour les écolos, et douloureuse, de la décroissance et du beyond growth. Donc c'est le grand mot à la mode chez les écolos, il est anglais, pardon, c'est au-delà de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir chacun deux voitures électroniques. Il va falloir le dire. Il va falloir dire que si on veut arrêter d'exploiter le reste du monde, on est bien obligé de penser une transition énergétique extrêmement sobre. Et ça, il faut qu'on arrive à le travailler, on ne le travaille pas. Il y a la question sociale, évidemment. C'est-à-dire que si on n'aborde pas la question des immenses inégalités, on a un vote de l'extrême droite qui est en train de s'affirmer de plus en plus. On a pays après pays qui bascule. La grande inquiétude depuis une semaine de toute la presse européenne, c'est la France. Hein. Si la France bascule, ça va aller très très mal. Et il y a un vrai risque. Donc ça ne sera pas traité que tant qu'on n'aura pas traité les inégalités. Mais après, je voudrais évoquer deux, trois trucs un peu plus iconoclastes. Il y a, à mon avis, à beaucoup discuté avec le seul pays de l'Union européenne qui est un pays colonisé, qui a été colonisé, qui s'appelle l'Irlande, et qui est le seul pays qui a une réflexion très forte sur ces sujets-là, qui a d'ailleurs été le seul pays qui, très rapidement, a pris la question palestinienne d'une toute autre manière que les autres pays européens, parce que l'Irlande, c'est un pays qui a été colonisé, et c'est un pays qui a souffert, qui a perdu des populations entières, hein, des mêmes famines que l'Afrique peut connaître, qui était une famine créée par l'Angleterre. Mais il y a aussi la question des Balkans. Moi, je suis un de mes petits fétiches, je suis fortement pour l'intégration des West Balkans, des pays des Balkans de l'Ouest, parce qu'il y a une population musulmane, notamment en Bosnie, etc., etc., qui sont des populations qui aussi permettraient de nous identifier dans une autre histoire où on a tendance à penser que autre chose que la chrétienté, c'est forcément l'immigré, alors que ça n'est pas vrai. Nous avons depuis longtemps sur nos territoires, on a aussi oublié que l'Espagne a été un moment musulmane. Enfin, on doit revisiter énormément notre histoire. On doit dépasser cet impensé européen, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un sommet européen qui n'a jamais abordé de près ou de loin ce sujet. Les chefs de gouvernement pourraient un jour se dire, il faudrait qu'il y ait un chef de gouvernement qui, à un moment, dise, on va la travailler, cette question, et on va discuter de ça pendant une journée. Ils ont, hein, ils ont des journées de réflexion. Ils ont des journées où ils négocient des textes pendant des heures, mais ils ont aussi des journées, ça, quand il faut discuter militaire, ils savent très bien faire. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on doit aussi changer notre image, puisqu'aujourd'hui, et c'est très, très important, ça, puisqu'on n'a pas du tout essayé de le faire, puisqu'aujourd'hui, en Afrique, on a longtemps été un des plus grands financeurs. Hein, on a financé beaucoup plus que, pendant très longtemps, on a financé la Russie et la Chine. Et pourtant, on est haï. Et c'est tout à fait normal, hein, ce côté ressentiment. On est vu comme des prédateurs, alors que la Chine achète, et c'est bien pire ce qu'ils font, la Chine, hein, ils achètent, ils sont en train de coloniser énormément l'Afrique, mais eux, ils ne sont pas vus de manière négative parce qu'il y a ce tel ressentiment. Donc on a énormément à travailler sur notre image, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour recréer des relations saines avec ces pays-là, on a un boulot immense.
Beaucoup de choses que tu as dit, j'essaie de structurer un peu mes pensées dans ma tête et désolé si je ne me fais pas trop bien compris à cause des limitations de langue. Tu as dit, et ça rebondit un peu ce que Malcolm a dit, il faut faire un immense travail de décolonisation et on a besoin des espaces et des processus d'échange sur la question de la décolonisation et décolonialité. Si on regarde un peu la réalité politique aujourd'hui en Europe, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des espaces pour discuter ça et que ces espaces s'enferment davantage. En Allemagne, maintenant, l'extrême droite mène les sondages et il y a un réel risque ils vont accéder au pouvoir l'année prochaine dans certains Länder. Donc, encore une fois, pour être un peu provocatif, est-ce que les écologistes ne doivent pas être un peu plus pragmatiques et de se dire, oui, tout c'est pas parfait, mais au moins nous allons maintenant, comment dire, faire le monde qui n'est pas parfait. Mais selon nos conditions, je me souviens encore l'année dernière en Allemagne, le Parti Vert a durci la politique migratoire. On n'avait jamais une politique si dure envers les réfugiés comme sous le gouvernement avec la participation des Verts. Ça a presque déchiré le parti. Mais il y avait beaucoup de politiciens qui ont dit que c'est nécessaire parce que si nous ne vont pas le faire, les autres vont faire même pire. Et peut-être la même question se pose aussi par rapport à des asymétries au niveau mondial commercial. Ce que je veux dire, c'est notamment l'accord de libre-échange Mercosur, où il y a de plus en plus de gens qui disent, même si c'est pas parfait, on va ratifier cela parce qu'au moins, cela va renforcer encore le système multilatéral dans le monde qui est en train d'être cassé par des autres forces. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais.
Alors, moi, sur la question de l'asile et des migrations, je pense que il faut qu'on cesse vraiment d'être pragmatique. Parce qu'à force d'être pragmatique, on a été de plus en plus loin. Et aujourd'hui, donc là-dessus, non. Je crois qu'il faut être très radical et qu'il faut revenir à de la radicalité. En fait, on l'a perdu, cette radicalité. On disait des choses bien plus radicales il y a 20 ans qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça me pense à un autre sujet que j'apprendrai après. Je pense que sur la migration, faut qu'on arrête sur le pragmatisme. On a été au bout du pragmatisme. Et encore une fois, parce qu'en plus, on ne fait pas face à du raisonnable. C'est l'irrationalité totale. La question migratoire coûte extrêmement cher à l'Union européenne, mais extrêmement cher. Ça nous coûte un fric fou, ces histoires de Frontex, de machin, de trucs. Les Anglais le savaient très bien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer The Home Office, donc les affaires. Donc c'était un monsieur qui travaillait aux affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur en même temps en Angleterre, au moment où ils étaient sur le projet Rwanda. Je crois qu'il n'avait pas bien compris pourquoi je lui avais demandé le rendez-vous. Il a dit oui, c'était un peu naïf de sa part. Et alors, il m'a fait sourire, parce qu'il travaillait pour ce gouvernement qui était à l'époque le gouvernement le plus conservateur, que, même pire que Thatcher, que la droite, que l'Union, l'Angleterre avait connu. Donc c'était clairement quelqu'un de gay, il portait plein de symboles gays sur lui, il était très jeune, il était en jean, il prenait son cappuccino latte là devant moi, etc. Et donc ça me fait sourire et je lui dis mais donc vous avez des gens qui meurent à vos frontières régulièrement, et puisqu'aujourd'hui la frontière... traverser de France en Angleterre, c'est devenu extrêmement dangereux, vu qu'ils ont mis des gardes partout. Donc les gens partent de plus en plus tard dans la nuit, dans les conditions les pires, le jour où il y a du brouillard pour que les gardes ne les voient pas. Mais du coup, c'est des bateaux. Donc on a une perte humaine très importante, hein, dans la Manche. Donc je lui dis, et puis je dis, mais je ne comprends pas, parce qu'en même temps, depuis le Brexit et depuis que vous n'accueillez plus un certain nombre d'Européens, Polonais et autres, je sais que vous manquez de gens. À Londres, les bars manquent de gens, les restaurants manquent de personnel. Et il me dit, bah oui, non, mais puis ça nous coûte un fric fou pour rien. De toute manière, même si ça marchait à plein, on ne mettrait jamais autant de gens que ce qu'on a besoin, parce que c'est des petits centres, hein, quand même. Non, mais simplement, il fallait faire plaisir, il fallait qu'on gagne le vote d'extrême droite. Donc d'abord, ça marche absolument pas, ça coûte beaucoup trop cher, puis c'est pas très bien ce qu'on fait. Hein. La conscience cynique, elle est là, ils le savent très bien, et au niveau européen, ils le savent très bien. Ils sont en train de faire ces projets, ils savent que ça va être hyper compliqué, ils savent qu'il va y avoir de la résistance citoyenne et que ça va être compliqué de faire leur charter, ils savent que les centres vont leur coûter très cher, ils le savent très bien. On est, depuis 10 ans, en train de surenchérir face à l'irrationalité, alors qu'on sait que ça ne nous rapporte pas les voix d'extrême droite. Et je dirais, donc maintenant, ça atteint les sociodémocrates. Donc on va de plus en plus. Ça a été d'abord les centristes, puis les sociodémocrates. Alors qu'on sait que, un, c'est irrationnel, et que, deux, on a besoin de gens, en vrai. On est en immense déficit démographique. La population hongroise est extrêmement vieille. La population italienne n'est plus assez jeune. Enfin, c'est vraiment important, le déficit démographique de la France. C'est un vrai problème. De l'Union européenne, c'est un vrai problème. Donc, on a besoin de gens. Donc, moi, je crois que là-dessus, on a besoin, au contraire, de revenir à un discours hyper radical, quoi. On accueille. Enfin, je suis désolée, mais je comprends pas comment on peut penser autrement. Même en termes d'intégration. Après, on accueille correctement, hein, parce que je voudrais quand même aussi dire que l'Allemagne, elle a accueilli correctement pendant une décennie. La Suède, elle a accueilli extrêmement correctement pendant une décennie. La France, elle n'a jamais accueilli correctement. Donc en France, on pourra en prendre plus que les autres. Donc ça, c'est une chose. Sur les traités de libre-échange, c'est une vraie question. Tu le sais probablement, c'est un débat immense chez les écolos. C'est un débat, en gros, qui oppose les Français et les Allemands, qui est très compliqué. Moi, j'ai été mal à l'aise pendant tout mon mandat sur ce sujet-là. Il y a eu un traité de libre-échange qui a été voté par la moitié du groupe, d'ailleurs une majorité du groupe, qui était le traité avec la Nouvelle-Zélande. Alors, c'était plus facile qu'avec plein d'autres pays, parce qu'à Nouvelle-Zélande, pour le coup, on est sur à peu près une égalité financière, même genre de situation économique, société, etc., etc. Mais notamment, un des éléments qui a fait beaucoup... Donc, c'était la première fois qu'il y avait des écolos qui votaient un traité de libre-échange. Hein. Le groupe écolo avait toujours voté contre tous les traités de libre-échange. Celui-là, il y a eu la majorité du groupe pour voter. Une toute petite majorité, mais il y a eu une majorité du groupe. Pourquoi ? Parce que notamment, c'était la première fois qu'on était dans un rapport de force très égalitaire, mais ça, c'est parce qu'ils avaient encore une fois la même société. Il y avait des problèmes. Hein. Benoît Biteau vous expliquerait très bien, et il a raison, comment faire venir des agneaux... Bon, déjà, on ne devrait pas manger des agneaux, mais comment faire venir des agneaux de Nouvelle-Zélande, c'est quand même un vrai problème écologique. Mais c'était la preuve. Mais surtout, il y avait un immense texte, il y avait une grosse partie de ce texte sur la question des autochtones de Nouvelle-Zélande et comment on allait respecter ces gens et comment, dans notre manière de coopérer avec la Nouvelle-Zélande, on leur disait, mais attention, hein, nous, on veut d'avoir aucun bien qui vient de vos communautés indigènes, enfin, donc des premiers habitants, hein, de la Nouvelle-Zélande, par l'exploitation. On veut telle garantie. C'était très important dans ce texte-là. C'est ce qui a fait basculer une partie. Ben ça, on pourrait le faire, au moins, on pourrait faire ça dans tous les traités de libre-échange. Parce que là, pour le Brésil, à Mercosur, il n'y a pas. Hein, les Indiens d'Amérique, du Brésil, on s'en fiche. Donc voilà, cette question-là, oui, il y a du pragmatisme qu'on peut avoir. La question du libre-échange, qui va être une question très compliquée, à mon avis, dans les décennies qui viennent pour les écolos, parce que soit on est vraiment contre, soit on veut l'adapter, et on va avoir une dissension, hein, entre nous là-dessus. C'est un vrai sujet compliqué que les écolos refusent d'aborder, parce qu'on n'aime pas bien quand on n'est pas d'accord, donc on ne sait pas trop les aborder, les problèmes, mais on devrait, parce que c'est vraiment un vrai enjeu. Je voudrais revenir sur la question de la réparation. Il y a la réparation symbolique, essentielle. Tu donnais l'exemple du Groenland. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Danemark vient de faire une grande déclaration, qui n'est pas encore l'aboutissement de tout, mais n'empêche, une grande déclaration. Ils n'avaient jamais reconnu la stérilisation des femmes groenlandaises, etc. Donc voilà, il y a comme ça des symboles qui sont très importants. Mais il y a aussi la question financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, pendant très longtemps, je ne voulais pas faire de politique. Les partis, c'était très vilain, mais je faisais sommet le temps des listes. Enfin, on parlait quand même de cette dette. Et effectivement, de comment, non seulement on a une dette écologique, mais on a, en plus, tu l'as dit, quand on y pense, quand on a aboli l'esclavage, on a fait payer à ces pays, que certains payent encore aujourd'hui, des dettes en leur disant « Ah ben oui, mais il faut rembourser, nous. Nous, on était venus vous coloniser, on avait plein d'argent grâce à vous, puis on ne va plus pouvoir en avoir, c'est terrible, donc il faut nous rembourser tout ça quand même. » Et comment ça se fait qu'on n'a jamais abordé vraiment cette question de la réparation financière aussi là-dessus ? C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des processus égalitaires. Donc là aussi, on aurait quelque chose d'assez pragmatique qu'on pourrait faire.
Merci beaucoup. Avant de passer la parole maintenant à la salle, peut-être vous avez encore des commentaires. Juste une dernière phrase aussi pour vous trois, surtout pour Alexandre et Fatima. Je me souviens, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un de la société civile au Sénégal sur la question de la transition énergétique. Et cette personne m'a répondu, c'est ceux qui parlent de transition énergétique veulent simplement empêcher les pays africains de se développer. Aucun pays ne s'est industrialisé grâce aux énergies renouvelables. Et ça, c'est une position qui est partagée par beaucoup des différents groupes, même des alliés avec lesquels on travaille. Fatima, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu réponds ?
Alors, oui, c'est une perspective assez répandue hein, en Afrique, je vous le concède, parce que les gens veulent répliquer ou reprendre les mêmes modèles de développement qu'ils ont vus dans les pays occidentaux. Ils pensent que c'est la même trajectoire que devrait prendre l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment, les gens pensent que l'Europe ou les pays occidentaux, de manière globale, se sont industrialisés en exploitant les ressources naturelles, notamment les ressources minières et minérales, et pourquoi pas l'Afrique. Donc, effectivement, c'est une vision. Mais le problème, c'est de ne pas avoir toutes les informations sur le fait qu'aujourd'hui, l'industrie fossile est obligée de reculer à un moment, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un choix. Et en réalité, ce qui va se passer, et je pense que les différents rapports de l'OCDE et de pas mal d'autres institutions ont prouvé que davantage on va, les pays qui vont s'engager dans l'exploitation des énergies fossiles vont reculer en termes d'avancement au plan économique et ça ne va pas vraiment se traduire par le développement. Mais c'est des informations aussi que la majorité de la population n'ont pas. La majorité aussi des organisations, même je dirais de la société civile, ne comprennent pas les enjeux autour du renouvelable. Il faut dire que dans beaucoup de pays africains, quand même, la question de la transition énergétique est très nouvelle. Et je pense que Henri Jebol, la Fondation, peut en témoigner pour ce qui concerne le Sénégal. Il y a quelques années, quand nous sommes revenus au Sénégal en train de parler de transition énergétique dans le milieu des organisations, mais on disait, mais elles reviennent de l'Europe, elles ont été colonisées. En fait, il y a du brainwashing, surtout elles qui viennent du monde anglophone. C'est normal aujourd'hui qu'elle parle de transition énergétique. Donc, c'est, à la limite, on est considéré comme des infiltrés, d'une certaine manière, dans une société civile qui croit fortement à tout ce qui est question de développement, je ne dirais pas durable, mais de développement, et qui pense que nos États devaient passer par l'exploitation de l'énergie fossile, pour avoir plus de ressources, en vue de faire face à toutes les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a nécessairement encore beaucoup plus de sensibilisation, de partage des connaissances qui existent sur les enjeux du renouvelable et le potentiel du renouvelable pour les pays africains. Ça reste essentiel. Tant qu'on n'aura pas ce niveau de compréhension du potentiel des énergies renouvelables pour les pays africains, ce sera très difficile de changer cette vision de la plupart de la population. Permets-moi, puisque j'ai le micro, de revenir aussi sur deux aspects ou trois de cette question de la colonialité, si on l'applique à la question des gouvernances des ressources naturelles, aussi pour revenir à la migration. Je ne peux pas résister. D'abord, il faut qu'on précise que des mécanismes de colonialité, comme il l'a très bien défini Ferdinand, aujourd'hui sont à la base du secteur extractif africain. Premièrement, c'est les accords de partage de la production qui sont particulièrement déséquilibrés et souvent au bénéfice des multinationales qui disent « bon, c'est nous qui investissons pour vous aider à produire, donc c'est nous qui prenons les bénéfices, en tout cas le maximum des bénéfices, et vous, vous allez garder les miettes, même si vous gardez le droit de propriété sur ces ressources naturelles ». C'est un premier problème. Le deuxième problème, les mécanismes de gouvernance du secteur extractif globalement sont aussi des mécanismes qui nous viennent de la Banque mondiale, des pays occidentaux, aussi qui sont empreints de ces rapports de colonialité d'une certaine manière. Je donne l'exemple de l'ITIA. C'est un mécanisme que nous célébrons un peu partout, l'initiative pour la transparence des industries extractives, mais jusqu'où, quand vous parliez de production des connaissances, elle est nourrie par les connaissances endogènes et locales africaines en termes de ce que veut dire la transparence pour un secteur donné. Je pense que c'est des mécanismes qui viennent de l'extérieur et qui constituent aujourd'hui, qui mettent l'accent non pas sur le rééquilibrage de pouvoir et la redéfinition des rapports économiques, mais mettent l'accent tout simplement sur les indicateurs de gouvernance. Et souvent, c'est pour plutôt mettre de la lumière sur la corruption, sur le manque de transparence du secteur extractif de la part, souvent, pas forcément même des entreprises, mais aussi des gouvernants africains, plutôt que de permettre de repenser le modèle économique qui est à la base du secteur extractif. Le troisième point, c'est aussi cette idée qu'en réalité, bon, les Africains, d'une certaine manière, ne peuvent pas gérer de manière autonome leurs ressources naturelles. Ça, c'est toute la question et tout le rapport par rapport à la colonialité. C'est qu'il y a toujours cette perception, c'est que si on les laisse ici, on va les retrouver à la même place. Donc, on est obligé d'intervenir pour les aider plus ou moins à faire avancer les choses. Donc, sur ces trois points, on doit effectivement repenser et faire beaucoup plus d'efforts pour que ça puisse changer si on veut envisager des rapports qui dépassent la colonialité, pour ne pas dire des rapports plus décoloniaux. Par contre, par rapport à la migration, je suis présidente du Comité des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants, qui est un organe de traité parmi les 10 organes de traité dont dispose le système des Nations Unies. Vous avez abordé le Rwanda. J'ai été rapporteure du Rwanda il y a 3 ans. Effectivement, cette question de l'externalisation des migrations est une question que nous avons abordée avec le gouvernement rwandais. Et ce qui, à l'époque, on leur avait donné 48 heures d'ailleurs, hein, pour nous donner toutes les informations sur ces accords qu'ils veulent avoir avec les États. Ils nous ont donné ces informations et l'idée que ce qu'ils ont avancé comme argument, c'est que bon, c'était juste une idée qu'ils avaient, des accords qu'ils étaient en train de préparer, mais qu'ils n'allaient pas avancer par rapport à cette tentative d'externalisation, comme vous l'avez dit, de tout ce qui est prise en charge des migrants sur le continent européen, surtout en ce qui concerne la Grande-Bretagne. Mais nous n'avons pas hésité, en tant que comité et expert indépendant du système des Nations Unies, de le rappeler qu'en réalité, c'est contraire à l'ensemble des normes et des standards internationaux en matière de protection des migrants. Et nous avons tenu à ce que ça soit dans le rapport que les Nations Unies ont produit sur cette question qui a été transmis au gouvernement. Et il est difficile aujourd'hui de dissocier. J'écoutais ce matin à la télé le rapport qu'il y a sur la migration en France et très rapidement les parallèles ou les comparaisons faites avec des États tels que le Danemark. Mais je ne pense pas que le Danemark ait la même histoire coloniale, par exemple, que la France. Pour dire qu'on peut espérer que la France puisse traiter la migration de la même manière que des pays qui n'ont pas les mêmes rapports, par exemple, avec les États d'où proviennent les migrants. Et il est difficile aujourd'hui de dissocier la migration et cette vague migratoire avec la gestion même des secteurs extractifs sur le continent africain, ou de dissocier la question de la migration avec la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de manière générale. La plupart des migrants qui atterrissent ici viennent de zones qui sont particulièrement affectées soit par le changement climatique, ou de manière globale, ou en tout cas qui sont affectés par des conflits en relation des fois à la gouvernance des ressources naturelles. Donc ça devient de ce fait une responsabilité mondiale à laquelle nous tous nous devons faire face. Et il n'y a pas un continent qui devrait penser qu'il n'a pas de responsabilité par rapport à tout ce que nous observons en ce qui concerne le phénomène migratoire. Malheureusement, et nous le répétons, et je vais conclure avec ça, aucun des États européens n'a accepté de signer la Convention des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants, tout simplement parce que c'est le texte qui, pour l'instant, dans le cadre juridique international, est le plus protecteur des migrants. C'est le seul texte au monde qui permet, qui garantit des droits aux migrants, pas seulement des migrants réguliers, mais aussi des migrants dits irréguliers. C'est le texte qui bannit toute cette question de migrants, je dirais, illégaux, parce qu'il n'y a aucun migrant qui devrait être considéré comme illégal. Il n'y a pas de migrants illégaux. Il y a des migrants en situation d'irrégularité. Et le processus pour nous le plus respectueux en termes des droits humains, c'est de procéder à la régularisation dans la mesure du possible. Et s'il faut travailler pour que ces migrants puissent retourner dans leur pays, ça doit se faire aussi dans les conditions qui respectent un peu leur dignité. Et effectivement, un texte pareil ou un instrument pareil, la plupart des États européens considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'être liés par de tels instruments parce qu'ils ont, dans ce cas, comme le Rwanda, avoir à répondre aux Nations Unies sur comment ils ont fait pour respecter les engagements qui sont inscrits dans cette convention. Donc c'est un appel aussi à toute la société civile européenne, et on le fait un peu partout à travers l'Europe, à pousser les États européens à ratifier la convention pour la protection des droits des travailleurs migrants, parce que ces travailleurs constituent 63% de la population migratoire dans le monde. La plupart des migrants, ils ne migrent pas juste parce qu'ils veulent découvrir s'il fait froid ou pas. Ils migrent parce qu'ils cherchent du travail. Donc, c'est une migration, c'est une mobilité liée à la main-d'œuvre. Et donc, cela veut dire que c'est des gens qui viennent aussi pour contribuer à l'économie des pays d'accueil. Je vais m'en limiter là. Et merci beaucoup.
Alexandre, Malcolm, vous avez des choses à ajouter? Sinon, je vais passer maintenant le micro à la salle. Ouais. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez vos mains. Il y a Elena qui va venir. Et on va collecter des questions, donc deux, trois questions à la fois. Et peut-être vous présentez brièvement. Et ouais, merci.
Bonsoir. J'ai une question. Là, on a beaucoup parlé de comment l'Europe peut penser sa transition énergétique de manière décoloniale, mais il y a d'autres puissances économiques qui sont dans la même démarche. Et je pense en particulier à la Chine, qui, elle, n'a pas le même passé colonial que l'Europe, qui a beaucoup d'intérêts en Afrique, beaucoup de coopération avec beaucoup de pays. Alors, tout à l'heure, la question a été un peu évacuée en disant que c'était une colonisation du même ordre que celle qu'avaient faite les pays européens. Mais je me demande si, est-ce que la Chine n'a pas développé d'autres types de relations avec les pays africains en particulier, et si elle est mieux acceptée, est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas le même poids historique de colonisation avec ces pays, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas des recettes dans la manière de faire, dans l'équité, dans le partage de la richesse, dont l'Europe pourrait s'inspirer? Merci.
Merci. Des autres questions? Peut-être ici, la dame.
Oui, on discute. Bonjour, donc moi je suis Tania, je viens de Cluny.
Est-ce que vous pouvez dire à qui vous adressez la question aussi, s'il vous plaît?
Peut-être à Fatima Diallo ou Oxfam, ou Malcolm Ferdinand.
Alors, pour tout le monde, ouais, bien compris.
En discutant avec des Congolais, je leur demandais justement si, au niveau de l'indépendance des peuples, je voulais savoir un peu où ça en était, parce que ce qu'ils me disaient, c'est qu'à chaque fois qu'ils... peuple essayer de mettre en place, on va dire, une démocratie, on va le dire comme ça, je ne sais pas très bien comment... bah, à chaque fois, ils étaient en grande difficulté et les dictatures restaient tout le temps en place. Et entre autres, a priori, à cause aussi de noyautage, enfin, en tout cas, il y avait un gros soupçon hein, de noyautage peut-être français, belge, pour si c'est le Congo belge, et qu'ils arrivaient du coup jamais, enfin, une grande partie de l'Afrique n'arrivait jamais à ce que les peuples se deviennent un peu, enfin, prennent en main leur pays et aient une démocratie, quoi, en fait. Et où est-ce que ça en est maintenant? Est-ce que c'est toujours aussi difficile?
Merci. Une dernière question, s'il vous plaît.
Oui.
Bonsoir, moi je m'appelle Modibo, je suis à Mâcon. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et votre engagement, et les sujets que vous abordez sont très intéressants, très importants. Ma question, ça s'adresse à vous quatre, même à toute la salle. Comment déjà, soit individuellement, au-delà de l'État, au-delà des pensées politiques, au-delà des processus d'aliénation, de domination, du capitalisme, comment déjà humainement on peut faire de la place dans son esprit et dans son cœur pour justement repenser le rapport qu'on a nous-mêmes avec les autres, nous-mêmes avec notre voisinage, nous-mêmes avec notre ville, nous-mêmes avec notre village, pour ensuite penser le reste du monde. Parce que j'ai l'impression, à chaque fois que je parle de sujets d'écologie ou de ces choses-là, que en fait, les gens ils sont tellement occupés sur leur petite vie, et il y a tellement de choses, des combats, des petits combats qui sont en train de mener. Ça peut être des combats sur la santé mentale, ça peut être le combat du comment je fais déjà pour me nourrir, comment déjà demain je vais aller au travail. Donc c'est des petits combats-là qui prennent tellement de place et qui les bouffent tellement que la pensée autour de l'écologie, l'avenir, la planète, ça devient presque accessoire. Donc ma question, c'est vraiment, en tant qu'individu, comment on peut, parce que je n'ai pas la réponse, je pense que si les gens vraiment, comment on peut faire assez d'espace en soi, à sa tête, dans sa tête, dans son cœur, pour pouvoir ne serait-ce que, voilà, penser quoi, voilà.
Merci beaucoup. Malcolm, je vais passer la parole à toi et tu peux répondre. Oui.
Est-ce qu'on ne prend pas encore plus de questions?
Ah, plus de questions?
Oui. Comme ça, après, on...
Si tout le monde est d'accord? Oui, d'accord.
La même chose. Oui, moi j'ai une question qui est liée à la question posée par la dame. Je voudrais savoir, j'ai une question par rapport aux États à l'Alliance des États du Sahel qui ont pris leur distance par rapport à la France et au colonialisme, qui essayent de renégocier leur contrat d'extraction minière, etc. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, où ça en est, est-ce que ça marche et est-ce qu'on leur met pas trop de bâtons dans les roues?
J'invite aussi des jeunes, le jeune public, oui.
À côté.
Bonjour, Pauline Boyer de Greenpeace. Pour reparler, parce vous avez parlé beaucoup de transition énergétique, et il y a plusieurs transitions énergétiques. C'est pour ça que il y a celle avec l'objectif de la décarbonation, mais qui va en général avec le tout voiture, enfin tout voiture électrique à la place des voitures thermiques, le tout numérique, le développement de l'intelligence artificielle, etc., dans un paradigme de croissance. Et la transition énergétique avec objectif de décarbonation, mais aussi de préservation de la biodiversité. Donc dans l'objectif, je pense, de ne pas atteindre le jour du dépassement en mai pour la France et en juillet ou août pour le monde entier, avec le respect des autres limites planétaires et donc avec un objectif fondamental de réduction de l'extractivisme. Un objectif de sobriété, et donc vous en avez parlé, hein, le débat qu'on n'a jamais sur comment est-ce qu'on on change de paradigme, on change nos modes de vie, qui intégrerait aussi justement une transition énergétique décoloniale qui va avec justice climatique, justice sociale. Et donc, une question juste aussi importante, parce qu'il y a un objectif d'ouvrir une mine de lithium dans l'Allier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'ouvre ? Est-ce qu'on l'ouvre pas ? Comment est-ce qu'on discute ? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces questions-là ? Parce que je pense que c'est un cas de conscience des écologistes aujourd'hui, enfin, ou des habitants en tout cas qui habitent dans le coin. Et en fait, je pense que avant de répondre à ça, il faudrait avoir ce débat de pourquoi on a besoin de batteries, pourquoi faire, comment. Et voilà, c'est ma question.
Ok, je pense que pour le moment, ça suffit comme question. On a 5 différentes questions. Moi, je propose qu'on va passer la parole de gauche à droite. Malcolm, si tu es d'accord.
Ok.
Attends, je vais juste résumer. On avait une question sur la Chine et est-ce que c'est vraiment une colonisation ? Et est-ce que la Chine n'a pas réussi de développer des rapports de force différemment que les pays occidentaux? La deuxième question, c'était la question par rapport au l'état de la démocratie dans des différents pays africains. Tu veux répondre à ça? Et peut-être aussi, comment faire assez d'espace mentalement pour parler des grandes questions de la vie et pas seulement des tâches quotidiennes?
Alors, je vais répondre à deux questions et je vais faire une petite remarque. Enfin bon. Sur la Chine, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais du peu que je sais, on retrouve au sein même, au sein même de la Chine des rapports de colonialité. Alors, on a bien sûr la question des Ouïghours, mais on a aussi la question d'ensemble de peuples autochtones qui sont dans la Chine. Peut-être pas bien compris la question, mais je ne sais pas si ça serait un modèle à suivre. Mais peut-être que Fatima aura d'autres choses à dire sur les relations Chine-Afrique. Sur la question de indépendance des peuples, noyautage, et même sur la question de alliance des États du Sahel qui essaie de renégocier les contrats extractivistes, on pourrait aussi la poser sur la question des Kanaks, dont le modèle d'indépendance passe par un extractivisme minier à travers le nickel. Je crois qu'ils ont 20-30% des réserves mondiales du nickel. Et dans mon travail de chercheur, j'avance la notion d'habité coloniale. C'est-à-dire une manière de se penser sur Terre qui est indexée à des formes de racisme, au patriarcat, mais à une exploitation violente du vivant. Et que cette habité coloniale, cette manière de s'imaginer sur Terre, ne change pas du jour au lendemain parce qu'on a une indépendance, parce qu'on a une souveraineté, parce qu'on a sa propre armée ou parce qu'on est département d'outre-mer. Et que ça permet d'être aussi critique des colons historiques ou présents qui vont exploiter les ressources que des dirigeants contemporains qui vont proposer un modèle économique qui consiste à finalement donner la même forme violente et qui conduit aussi des violations de droits humains. Le livre que j'ai publié l'année dernière sur l'affaire du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, précisément, invite à défaire l'habité coloniale, ce qui est beaucoup plus... Parce que pour moi, c'est se tromper en se disant il suffit d'être indépendant, il suffit d'avoir tel peuple ou telle personne, telle couleur de peau au pouvoir pour que le rapport change. Même si, ça a un sens. Et sur la question comment faire place... Moi, je pense que ces échanges, je pense que les lectures, les rencontres permettent d'enrichir les récits qu'on se fait de sa propre vie. Il faut pouvoir... Moi, j'ai mon ordinateur, mon téléphone. Même si on a l'impression que ce sont des petits combats, je sais que mon existence sur Terre est reliée finalement à tellement d'autres luttes qui sont loin, que je ne vois pas, mais dont je me dois d'être solidaire. Ce n'est pas une réponse, mais je pense que parfois, l'idée de pouvoir connecter, c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai essayé de décentrer le regard qu'on peut avoir sur l'Europe en disant l'Europe n'est pas qu'en Europe. L'Europe, c'est aussi un projet occidental extrêmement violent. De la même façon que faut décentrer la façon dont on pense la France. Alors oui, on est à Cluny, on peut se dire, bah ouais, voilà, non. En fait, nous sommes, en tout cas, aujourd'hui, un pays multisitué, présent dans 3 océans. Et ça permet aussi de se dire, bah, pourquoi c'est important de parler de l'histoire ? C'est pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Gwendoline parlait de l'externalisation, et Fatima, de l'externalisation de la migration, mais en fait, c'est pas nouveau. Le bagne en Guyane, qui a été réactivé par Wauquiez, Darmanin, Wauquiez qui propose à Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, on est dans cette même forme de colonialité. Les territoires dont j'ai parlé, pays d'outre-mer, département d'outre-mer, ont une particularité, c'est que certains font partie de l'Union européenne, comme la Martinique, mais ne font pas partie de l'espace Schengen. Pourtant, les habitants sont de l'Union européenne, sont des citoyens européens, mais parfois ne font pas partie de l'Europe, comme c'est le cas en Polynésie. Et cela donne lieu, finalement, à tout un processus extrêmement complexe et parfois violent, et des formes de xénophobie qu'on retrouve aussi aux frontières. Et je prends la parole comme ça, après je ne la reprends plus. Mais il y a un deux poids deux mesures, effectivement, sur la question des migrants, où on va dire, bah ouais, les migrants qui essaient de traverser la Manche, franchement, il faut les repousser, il ne faut pas les accepter. Ah, mais les bons migrants climatiques de Tuvalu, là, il faut les accepter. Bon, là, il y a vraiment un problème. Et puis, le 26 mars 2019, il y a une résolution qui a été passée à au Parlement européen. Je ne sais pas si Gwendoline, tu l'avais en tête. Je le retrouve. Qui est la résolution du 26 mars pour les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine. Donc ce sont des textes qui sont, et c'est le fruit de lutte aussi. Et je lis juste le premier passage, le premier article, il y en a 20. Cette résolution invite les États membres et les institutions européennes à reconnaître que les personnes d'ascendance africaine sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination, à la xénophobie et de manière générale jouissent de façon inégale des droits de l'homme, etc., etc., et invitent aux actions de réparation. Donc ce sont des outils dont on peut se servir, et peut-être que dans une autre table ronde, on peut dire que c'est un travail qui commence, on aura un manuel un peu comme celui-là en disant comment construire une Europe décoloniale.
Peut-être tu pourras répondre aux questions par rapport à la Chine et aussi quel est l'état des différents pays sahéliens actuellement et quelle place de la démocratie dans l'Afrique subsaharienne.
Oui, merci Fabien et aussi pour le choix des questions. Par rapport à la Chine, toujours si on le ramène dans le contexte par exemple, ne serait-ce de l'exploitation des ressources naturelles, il faut dire qu'en termes d'impact sur les populations de manière globale, il n'y a pas de différence entre une multinationale, je dirais, entre une multinationale qui exploiterait l'or d'origine occidentale dans le sud du Sénégal, par exemple, à Kédougou, qui est la zone aurifère par excellence du Sénégal, et entre une compagnie chinoise qui exploiterait le bauxite en Guinée, par exemple. Et c'est des expériences où nous avons vraiment travaillé avec les communautés en termes de réalité sur le développement au niveau local. Il n'y a quasiment pas de différence. En termes de violation des droits économiques, sociaux et culturels de ces communautés, il n'y a quasiment pas de différence. Toutes ces zones qu'il y ait une compagnie qui vient de l'Australie, qui vient de la France ou que ça soit BP, il n'y a pas de changement en termes de niveau économique. Donc on va se demander, mais pourquoi alors les Africains seraient beaucoup plus à l'aise avec des Chinois à côté ? Pourquoi ? Parce que tout simplement aussi, moi je dis, il y a moins d'hypocrisie. La Chine ne vient pas en disant « je suis dans une mission civilisatrice, j'amène les droits de l'homme, j'amène la démocratie », alors que ces mêmes personnes ou ces mêmes entités qui viennent ou ces entreprises qui viennent avec ces idéaux sont ceux-là qui sont en train de renforcer la pauvreté en Afrique et ça pose un problème. Je donne une anecdote. Dernièrement, il y a moins de 4 mois, l'équipe de basket féminine du Sénégal voulait aller aux États-Unis pour des entraînements. On leur a refusé le visa. Tout le monde était choqué. Mais pourquoi, quand même, c'est l'équipe de basket, c'est des professionnels, pourquoi les États-Unis vont refuser le visa? On était tous voilà, mécontents, on se sentait d'une certaine manière humiliés quand même. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement des migrants qui vont disparaître sur le sol américain. Ils sont là pour un but bien précis et ils devaient faire leurs entraînements avec le NBA. À côté, qu'est-ce que le premier ministre a fait? Il est parti en Chine. Et en Chine, on lui a déroulé tout un tapis rouge avec un pactole d'accords, de partenariats et autres. Est-ce que ça aura une répercussion sur le quotidien des Sénégalais? Peut-être que non. Peut-être que ça va même, à la fin, encore renforcer la paupérisation. Mais dans l'imaginaire, dans la perception du Sénégalais ou des Sénégalais que nous sommes, c'est quand même des rapports qui sont beaucoup plus respectueux. Et c'est ça, je pense, qu'on a aujourd'hui avec l'Europe et avec particulièrement, des fois, la France. C'est d'avoir quand même cette approche un peu condescendante, un peu toujours ancrée dans la colonialité. Je viens en Afrique en conquérant et autre que forcément, la Chine n'essaie pas de projeter. Elle va faire ses dégâts, mais pas aussi le déguiser dans une forme d'hypocrisie que les Africains de plus en plus ont tendance à rejeter. Et c'est ce qui se passe avec l'AES. Vous avez parlé de l'Alliance des États du Sahel. C'est justement pourquoi aujourd'hui ils sont soutenus ou ces États. C'est parce que tout simplement ils rejettent un modèle France-Afrique qui fatigue tout le monde. Les gens se disent, mais écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ces rapports de force changent. Et eux, ils projettent ce genre de modèle. Est-ce que ça marche? Personnellement, pour quelqu'un qui est très attaché aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux, je dirais, j'en doute. Mais ce qui est clair, c'est que dans la représentation, dans l'imaginaire, dans la perception des Africains, ça a un sens. Parce que tout simplement, les puissances occidentales ont fait tellement de mal au niveau du continent que tout le monde est en train de trouver une alternative. Est-ce que l'AES va être la vraie alternative? Pour avoir aussi côtoyé les dirigeants de l'AES dans plusieurs cercles diplomatiques, je pense que moi, personnellement, je peux me permettre d'en douter. Mais ça marche au niveau de la population de manière globale. Vous allez au Nigeria, les gens vous disent, mais nous, on préfère aujourd'hui le Burkina Faso au Sénégal. Parce que tout simplement, le Burkina Faso ou l'État burkinabé est en train vraiment, vous sentez tout un soutien populaire par rapport à ces gens de régime ou par rapport à ces gens d'État qui sont en train de rejeter davantage de manière beaucoup plus claire la France-Afrique. Je voulais juste conclure avec la question de la réparation. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Malcolm qui a approché quand même la réparation d'un point de vue philosophique et à la fois pragmatique qui est très intéressant. Mais si je ramène cette question de la réparation toujours au niveau de la question de la gouvernance des ressources naturelles, pour moi, il faut que la réparation soit juste. Parce que je peux considérer le Diétpi comme étant quand même un modèle de réparation en termes de dégâts que les États les plus pollueurs ont eu à faire à travers l'exploitation du fossile de manière globale pour leur développement. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait? Si on regarde le Diétpi comme étant un des mécanismes de financement climatique, donc une réparation à travers des financements pour la transition énergétique. Si on regarde toute la stratégie loss and damage qui veut aussi aller dans un sens d'une réparation, le problème c'est que dans la mise en œuvre, il y a des germes d'injustice dans les mécanismes de réparation si on le ramène à la question de la gouvernance des ressources naturelles. Donc oui à la réparation, mais pas des semblants de réparation, des réparations qui vont aussi être justes et qui vont mettre au cœur des stratégies qui vont protéger les droits économiques, sociaux et culturels des différentes communautés. Et ça me permet de rebondir à Greenpeace par rapport sur la question de Greenpeace, par rapport à quelle transition énergétique on devrait envisager. Pour moi, il n'y a pas seulement différentes perceptions de transition énergétique. Il y a plusieurs transitions dans lesquelles on doit s'engager. Et ça va au-delà de la transition énergétique. On a besoin de la transition de nos au plein sens du terme, la transition écologique, la transition économique, la transition environnementale. On a besoin vraiment de nous engager dans plusieurs formes de transition pour réussir la transition énergétique. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un type de ressources par un autre type de ressources. Il faut changer le modèle économique, il faut changer la manière de percevoir et de gérer les ressources naturelles de manière générale pour arriver à une transition énergétique qui va pas seulement régler la question économique, mais aussi qui va permettre de réduire de manière drastique l'empreinte carbone de manière globale. Je vous remercie, Fabien, de m'avoir donné la parole et peut-être que c'est la dernière fois que je vais prendre la parole. Je remercie tout le monde pour l'écoute. Merci.
Pour te répondre, mon cher Modibo, sur le cœur, c'est le néolibéralisme qui met une cloche sur notre cœur. Le néolibéralisme qui crée un système compétitif où on va dire c'est ta faute si tu es en situation de pauvreté. C'est le mérite qui fait que certaines personnes sont en situation de pouvoir ou de richesse. Ce système-là, c'est ce qui fait que les personnes aussi derrière sont en situation de dépravation matérielle et ont comme préoccupation principale les ressources matérielles au quotidien, qui fait probablement monter l'extrême droite. Il faut en avoir conscience. Et des gens qui disent, dans nos pays, en tout cas ici, disent on travaille, on paye nos impôts, mais on voit pas les fruits de la richesse. Et donc, comment on fait par rapport à ça et pour accélérer une transition écologique derrière ? Ça, c'est la question stratégique aussi que tu poses, Pauline. C'est comment on répond à ça? Il y a un truc, c'est que le néolibéralisme a aussi créé des gens où on nous appelle tous à être que des consommateurs. Mais on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des citoyens. Et par ailleurs, ce truc des consommateurs, c'est qu'on met, et on parle toujours de transition écologique, en mettant la pression sur la demande. Et même là, dans les questions qui sont posées, c'est vraiment comment on réduit notre demande. Oui, c'est nécessaire de réduire la demande. Oui, c'est nécessaire d'avoir des fiscalités climatiques sur des taxes carbone, sur la demande, etc. Mais il faut aussi, et on ne parle jamais de l'offre, et l'offre, c'est le problème, et c'est ce dont on a parlé juste avant, là je viens un peu plus dans la tête, mais c'est la raison, qui exploite les ressources naturelles des pays du sud global et qui sont dans des situations de rente absolument colossales et qui s'enrichissent, ce sont les milliardaires à la tête de multinationales, ce sont des multinationales comme Total qui vont réaliser des bénéfices exceptionnels, etc. Et l'argent, il existe là-bas. Et donc, il faut aller du côté de l'offre, mettre la pression sur l'offre, aller chercher l'argent du côté de l'offre pour soulager l'ensemble des personnes, des citoyens qui sont en situation difficile au quotidien et pour financer la transition écologique derrière. Et la transition écologique ici, mais aussi la transition écologique et ce devoir de solidarité internationale au niveau international pour financer un nouveau modèle d'architecture financière solidaire où on va faire un énorme transfert d'argent massif. L'argent ne suffit pas, on est d'accord, mais en tout cas, c'est un des éléments d'un point de vue économique qu'on peut faire pour aider à l'adaptation aux pertes et dommages, etc. Et tu disais tout à l'heure, accueil. La réponse à tous les enjeux d'inégalité dont on parle depuis tout à l'heure, c'est partage. En fait, il y a plein de solutions possibles. Mais il faut partager les ressources, il faut partager les richesses, il faut partager le pouvoir inégalitaire, et c'est ça qui va soulager d'une certaine façon le cœur de chacun et qu'on pourra aussi avoir une stratégie efficace.
Oui, très vite, Fatima a répondu sur la Chine. Non, je pense que ce n'est pas plus un modèle. Effectivement, il n'y a pas cette hypocrisie. La Chine est aussi en train de coloniser l'Europe. Vous savez qu'elle a acheté plusieurs ports dans l'Union européenne. Le port de Pirée, en Grèce, a été acheté par la Chine. Ça veut dire que la Chine détient en Afrique et en Europe des infrastructures qui sont à elle. Hein, c'est chinois. Donc non, je pense que le modèle n'est pas meilleur. Mais la question, effectivement, de comment on s'est abîmé dans le double standard, elle nous a ruinés. Elle a ruiné notre image. C'est obligatoire. Et la France, encore une fois, une responsabilité. Non, je sais, j'ai l'air très anti-française, je suis désolée. Et vous ne m'avez pas entendu parler de la Ve République encore, mais... Je veux dire, à un moment donné, quand on fait la déclaration des droits de l'homme, qu'on est persuadé qu'on est les détenteurs de la démocratie, des droits fondamentaux, que c'est nous qui savons ce que sont les droits fondamentaux, alors qu'en même temps, depuis le départ, on a l'esclavage, en même temps, on n'a pas les droits des femmes, etc. Enfin, je veux dire, on a été depuis le premier moment. Et en plus, on l'a aggravé continuellement. On a été ceux qui, effectivement, avaient une mission civilisatrice, mais après, on a été aussi ceux qui, économiquement, venions détruire tout en disant on vous apporte le confort. Et donc aujourd'hui, effectivement, dans un monde en plus qui, par l'intelligence artificielle, crée de la désinformation continuelle, les autocrates africains disent continuellement « oui, mais les Chinois sont nos amis et pas les autres ». Comme ils disent d'ailleurs que les Africains ne savent pas, ne peuvent pas faire de démocratie. La démocratie n'est pas adaptée au continent africain. Je veux dire, on est en plein là-dedans et on est extrêmement fautif, encore une fois, par des décennies d'histoire, d'avoir laissé en place et même permis, Malcolm l'a très bien dit, permis de laisser en place par des aides militaires des autocrates pendant des années. Donc on a donné une image de la démocratie qui était une image de la France être des autocrates à détruire leur peuple. Et donc cette question de l'universalisme des droits, moi je continue à y croire, sauf que c'est pas cet universalisme qu'on a pu faire pendant des décennies. Et sur ta question, mais pour répondre aussi à la question du texte dont tu parlais, moi, j'ai commencé la politique relativement jeune et on l'oublie parfois. Mais en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, 15 ans encore en arrière, quand on était élu municipal, comme moi à Grenoble, on entendait encore le changement climatique, ça n'existe pas. Et on l'entendait dans les bancs même des sociodémocrates. En France, on les appelait les socialistes. Ils ont beaucoup changé sur la question, etc. Mais du coup, si on... Ils ne sont pas forcément les mêmes manières de régler la question. Mais donc, on est obligé tout le temps de... On ne peut être que dans le faire, quoi. Et dans le continuer à dire et continuer à essayer et continuer à faire et continuer à se battre. Parce que sinon, moi, je n'aurais jamais rien pu faire. Parce que, je veux dire, on me déniait même la vérité du changement climatique. Et on a connu ça tout le temps. Et on nous... Encore une fois, je vous dis, on fait face à une irrationalité totale sur la question des migrations, la question du droit, de l'état de droit. Aujourd'hui, on renverse les valeurs tout le temps. L'état de droit, c'est Orban, enfin, Viktor Orban, qui est un dictateur hongrois. Enfin, on est continuellement là-dedans. Donc, tout ce qu'on ne peut faire, c'est continuer de nous à y croire et à se battre. Enfin, on n'a pas d'autre solution, en vrai. Et... quelque part, c'est le sens de l'existence, parce que sinon aussi, effectivement, on n'est pas que des consommateurs, mais on est obligé. Et on a besoin de courage, et on en manque crucialement. Et là, je reviens sur la question des textes. On en a voté des textes au Parlement européen. J'arrivais même à un moment donné dans certains textes à mettre femmes racisées. Je peux vous dire, on était arrivé, on avait une espèce de majorité libérale économique, mais du coup aussi libérale sur ces questions-là. Mais le Parlement européen d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Parlement européen de 2019 à 2024. Il est flippant, ce Parlement. Moi, c'est très pratique, on m'a mis de côté, donc c'est très pratique. J'ai pas à me poser la question de ce que je voterai aujourd'hui au Parlement européen. Mais c'est terrible d'être un élu écolo aujourd'hui ou un élu de gauche. Un peu partout en Union européenne, mais particulièrement au Parlement européen. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est de gens qui continuent à avoir du courage. On manque crucialement de courage. On manque crucialement de tenir des propos et de les assumer et de pas se dire « il faut que je plaise et il faut que je fasse attention à, parce que lui, il pense ça et lui, il pense ça ». Et ça, on en manque crucialement. Et un dernier point, c'est qu'on manque de représentation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas aussi de décolonisation de nos esprits tant que les parlements de l'Union européenne et le Parlement européen sera aussi blanc, contiendra aussi peu de femmes, etc., etc. On a la vraie problématique aussi. Ça ne change, ça règle pas tout. Mais la question de la représentation, elle est quand même très importante.
Juste pour dire que dans la salle, il y a Marcel Nadeau et Pascal Marguerite qui vont parler demain et qui, compatriotes martiniquais, mais contribuent aussi à rendre visible la question des coloniales et écologistes. Et donc, je vous invite à assister demain à la table ronde de clôture. Voilà.
Merci beaucoup. Je ne vais pas me tarder. Merci pour votre participation. Merci infiniment à les différents intervenants d'être venus, d'être restés jusqu'à la fin ici. Je pense que c'était un fort plaidoyer à la fin. Il faut continuer à se battre. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous approcher maintenant. Je pense qu'il y a aussi l'occasion de prendre encore un verre de vin. Merci encore une fois et belle soirée à tout le monde.
Merci à toi.